Nombreux à cette dernière conférence du cycle à propos des métiers d'art, nombreux dans cette période d'examen hein, pour les étudiants et les enseignants. On sait que mai et juin sont des périodes rudes, mais je crois qu'aujourd'hui, on aura un partage extrêmement instructif pour clore ce cycle autour de l'innovation dans les métiers d'art. En mois de mars, on avait traité et échangé beaucoup sur l'innovation technique, mais l'innovation, cette notion bizarre et polysémique, hein, ne se réduit pas au simple champ de la technique. Mais nous pensons que les métiers d'art sont aussi des lieux où s'expérimentent de nouvelles formes de travail, c'est-à-dire dans le processus de production, des nouvelles formes d'entreprise, des nouvelles formes de collaboration très interdisciplinaires et que s'inventent là aussi des choses qui seront ce soir illustrées par trois intervenants que je vais vous présenter rapidement. Donc Felipe Ribon qui est là, qui est designer, qui est photographe, qui est commissaire d'exposition, qui a fait beaucoup de choses. On parlait de la Villa Médicis où vous êtes resté un an hein, à Rome avant de partir pour Kyoto l'année prochaine, à la Villa Kujoyama, si je ne me trompe, hein, c'est ça. Et puis vous avez beaucoup de prix pour vos réalisations, hein, notamment le Grand Prix de la Ville de Paris, mais bien d'autres encore. Et donc vous menez une réflexion sur ces nouveaux objets dont vous allez nous parler et que vous allez illustrer. Et en plus, Felipe Ribon, vous êtes l'un des co-auteurs de l'exposition qui est au-dessus de nous, l'exposition Mutation, au sein de laquelle hein, vous avez réalisé un objet avec un artisan d'art, Nicolas Mariscael, qui est, on pourrait dire, orfèvre. Voilà. Et vous êtes l'orfèvre aussi à un autre niveau de ce brûle-parfum dans cette réalisation commune qu'on appelle Osmos. Voilà. Ensuite, on écoutera Ludovic Avenel. Ludovic est ébéniste, hein, et même, tu dirais, créateur, ébéniste créateur, diplômé de l'école Boulle. Et Ludovic mène une démarche et une recherche avec d'autres partenaires, notamment des designers, des architectes, hein, sur ce qu'on peut faire avec le bois, disons, en gros. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, je crois, et tu nous le montreras tout à l'heure. Et Grégoire Talon, qui est designer. Grégoire travaille chez les Compagnons du Devoir et du Tour de France, où il anime et il a créé notamment ce projet qui est annuel, hein, je crois, qui est le défi de l'innovation et qui fait aussi travailler ensemble des gens de toute origine, si j'ose dire professionnelle, et va être l'un des piliers du nouveau centre couvre les Compagnons à Pantin, le centre de formation sur les matériaux souples. Hein. Pantin, qui est ce consortium où on retrouve à la fois Hermès, la nouvelle maison des Compagnons du Tour. Et puis, le projet que porte la ville de Pantin pour réintégrer les ateliers d'art, et notamment ateliers métiers d'art, dans le centre-ville, dans le cadre d'un projet urbain assez innovant. Voilà. Donc, Felipe, Ludovic et Grégoire, nous parlerons de ce qu'est pour eux l'innovation, aussi à travers leur parcours et leur expérience personnelle, à travers leur réflexion, pour faire naître sans doute des envies, des idées et d'autres champs de réflexion. Voilà, merci. Et je passe tout de suite la parole à Felipe.
Bonjour tout le monde, merci d'être venu, merci de m'avoir invité à à cette conférence sur l'innovation, qui au départ j'étais un petit peu surpris du fait qu'on essayait un petit peu de raconter mon travail à partir de ce prisme ou de ce filtre, et c'est ce que je vais chercher à faire aujourd'hui, c'est d'essayer de voir comment, en tout cas pour moi, ce travail se place, mon travail de designer, se place un petit peu dans ce registre. Je vais vous présenter 4 projets, chacun particulier, différent, mais qui montre un petit peu aussi mes préoccupations et aussi mes façons de résoudre certains problèmes auxquels on est tous confrontés. Donc le premier projet que je vous présente, il s'appelle SOS, et il illustre, en fait, je me suis posé comme question, en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais en France par exemple, la matière osseuse issue de l'abattage ou de l'industrie agroalimentaire représente 4 millions de têtes bovines. 4 têtes bovines qui sont tuées toutes à la même âge, et donc ils ont toutes la même taille, ils ont toutes les mêmes parties, et aujourd'hui on n'en fait rien de cette matière. D'ailleurs, les boucheries doivent même payer pour que des services viennent recollecter donc les os qui restent des carcasses pour qu'ils soient ensuite incinérés. Cela depuis donc le problème de la vache folle dont on se rappelle tous. Donc il me semblait déjà un petit peu étrange que dans ce système donc, de matières premières, d'ailleurs, il faut payer pour s'en débarrasser. Et en plus, pour s'en débarrasser d'une matière qui, dès le départ, est écologique, puisqu'il s'agit d'une matière naturelle, l'humain produit une pollution, puisqu'il est calciné, donc c'est une très forte pollution atmosphérique en CO2. Donc voilà, donc c'est une matière abondante qui n'a absolument pas aucune valeur commerciale aujourd'hui, et qui, en France déjà, ça représente, comme je disais, 4 millions de têtes. Donc c'est énorme. Notre paradoxe sur cette matière, c'est que c'est pas innovant en soi de s'intéresser à cette matière. On le sait tous, depuis la préhistoire, on fait des objets en os, c'est pas très nouveau. Cependant, après une analyse, j'ai commencé à constater qu'en fait, au début même du siècle, du XXe siècle, en France, il y avait quand même beaucoup d'industriels et d'artisans qui travaillaient l'os. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un seul fabricant au centre de la France qui fabrique encore quelques pièces en os pour certains usages, dont notamment pour les instruments de musique, qui continuent à utiliser certaines parties en os, ou pour certaines restaurations en marqueterie ou d'autres choses. Mais en fait, c'est les derniers, c'est les seuls, alors qu'il me disait qu'il y a 20 ans, il en restait encore quelques dizaines. Donc, c'est une matière qui n'est pas innovante en soi, mais qui a quand même disparu du marché et qui a été, je pense, remplacée par, évidemment, le plastique. Mais la question que je me suis posée dès le départ, c'était de savoir si aujourd'hui, avec nos modes de fabrication, nos comportements, nos usages de certains produits, est-ce qu'on n'avait pas intérêt à la renouveler et à la réinjecter dans des systèmes de production. Ça paraît un petit peu naïf comme ça, mais j'ai dû commencer de zéro, puisqu'il n'y avait vraiment personne aujourd'hui en France qui travaille cette matière de façon... des métiers d'art vraiment dédiés à l'os. Certaines, justement les ébénisteries et marqueteries, certaines personnes travaillent encore l'os, mais ça reste quand même très marginal. La seule personne que j'ai contactée, c'est quelqu'un qui travaillait à l'ivoire, un vieux monsieur, je ne me rappelle plus de son nom aujourd'hui, mais peut-être vous le connaissez certainement, je crois que c'est un des derniers en France qui a encore un stock en ivoire, et qui m'a un petit peu expliqué comment ça se travaillait, l'ivoire et donc l'os. Je vais aller plus vite parce que sinon je ne finirai jamais. Donc en fait, les projets que je vous présente, donc, c'est des applications avec des usages un petit peu plus contemporains. Donc l'idée, c'était de réutiliser cette matière avec nos comportements actuels. Donc par exemple, des lunettes. L'histoire ici, c'est plutôt d'imaginer que l'os, en fait, qu'on a tous ici au bord du nez, c'était de venir le scanner en 3D. Et comme vous le savez, en fait, c'est la partie la plus compliquée de les lunettes parce que c'est celle qui est en contact avec la peau. Certaines personnes sont allergiques. Et puis finalement, elle n'est vraiment pas ergonomique. On a tous la même, peu importe la forme du nez. Ici, l'idée, c'est de venir scanner 3D donc la forme de chacun et reproduire à l'inverse la contre-forme identique. Je voyais deux intérêts. Le premier, évidemment, ergonomique, mais aussi le côté allergique, puisque finalement, on n'est peut-être pas tous le savent, mais en fait, certaines personnes développent des allergies au plastique et en contact permanent de la peau, et l'os s'avère qu'il n'a absolument aucun problème de compatibilité. D'ailleurs, c'est la patina, même la graisse de la peau va venir nourrir, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas va venir hydrater l'os. L'os est une matière plus légère que la corne ou que certaines autres écailles qu'on utilise, donc il semblait aussi un usage pertinent. Pardon. Un autre projet, mais ça je passe assez vite, c'est plutôt lié à la mode, c'était plutôt utilisé, donc la fonctionnalité de l'os, de compression, enfin, je suis allé un peu vite, mais au départ j'ai travaillé sur les os de cochon, de vache, de mouton, essayer de voir lesquels étaient les plus adaptés, et finalement les os de vache étaient les mieux. Pourquoi ? Très simplement, leur taille sont plus grands et nous permet du coup de faire des objets peut-être un petit peu plus grands, mais aussi sont les plus robustes. Le cochon, par exemple, reste très gras, c'est très compliqué à bien nettoyer, et par exemple le chèvre, en torsion, il se casse, il se brise, il est très très fragile. Donc finalement, j'ai plutôt développé que les os de vache. Et par exemple ici, typiquement, c'est un travail non pas dans le décor et l'ornement, mais plutôt dans la fonction, donc de compression de la matière qui est déjà intrinsèque. On voit juste un talon aiguille. Et j'ai imaginé peut-être une gamme comme ça d'usage un petit peu mode sur l'os. Un autre usage que j'ai imaginé, c'est plutôt celui d'un stylo. On sait tous que l'os, en fait, c'est là, il y a la moelle au centre, et donc le sang rentre par certains canaux et puis ressort par d'autres. Donc l'os lui-même est perméable et imperméable. Donc ici, la question, c'était d'une part de remplacer donc le sang par l'encre et créer un stylo qui lui-même est au centre, enfin, garde le cœur pour imperméable pour l'encre et puis permet de... Il faut savoir que l'os est une matière très agréable au toucher. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'avoir sur certains couteaux ou certaines manches. C'est une matière qui s'utilisait beaucoup dans le contact parce qu'il est vraiment très, très doux, très chaud. Et donc, je voulais aussi replacer cette matière qui, aujourd'hui, pratiquement, on est tous soit en contact avec du plastique ou du métal. Et puis, un petit sujet qui m'intéressait aussi, c'était la question du jetable. Donc, déjà présente dans les stylos, mais plus présente ici aussi, c'est qu'en finalement, aujourd'hui, on est dans une société de consommation du jetable. Tout ce qu'on consomme, on le jette, des gobelets, des bouteilles, enfin, presque tout est jetable, le bic. Et je me suis dit, bon, bah, cette matière qui est à la base jetable et biodégradable, pourquoi pas aussi essayer de la réintégrer dans des usages aussi où, naturellement, on peut jeter les choses. Donc, par exemple, des outillages comme ça, ou des esquimaux, des spatules, des choses comme ça, ou même le stylo avant. C'est très facile à produire, c'est pas vraiment coûteux en termes d'usinage, et ça peut aussi nous permettre un petit peu de nous libérer de ce côté de consommation, jeter peut-être plus avec une conscience plus écologique. Ici aussi, ce qui m'intéressait, c'est la capacité. Donc, enfin, c'est une matière première alimentaire aussi. Il faut pas l'oublier. Donc, en fait, il peut redevenir en contact avec la bouche. On peut vraiment il n'y a aucun problème sanitaire dans ce terme-là. Donc, en fait, j'étais aussi intéressé par ce rapport-là, en fait, de jetable et alimentaire. Voilà, ce sont que quelques propositions. Bien évidemment, il y en a beaucoup plus. Je vous montre qu'un petit champ. Et à chaque fois que je finis ce projet, j'invite toujours aussi d'autres designers ou d'autres créateurs pour continuer, en fait, cette recherche, puisqu'il y en a vraiment d'autres en termes, par exemple, d'isolation thermique. L'eau, c'est vraiment un grand isolant thermique. On pourrait vraiment l'utiliser pour le bâtiment. Enfin, il y a des applications nouvelles avec nos modes de comportement et nos technologies permettent vraiment d'imaginer des nouveaux usages. Un autre projet que je vous présente, donc lié aussi à peut-être à nos comportements un petit peu... dérangé ou plutôt paradoxal, c'est celui donc lié à l'hygiène. Le projet, c'est une salle de bain. Et ici, donc l'hypothèse, enfin, ou ce qui m'intéressait ou m'interpellait, c'était donc bien sûr la question de l'hygiène et comment finalement, en fait, on passe presque plus de temps à nettoyer l'espace pour qu'il soit propre. Pour que nous, on soit propre, en fait. On produit, on consomme tellement de produits nettoyants pour finalement arriver à un espace immaculé, blanc, propre. D'ailleurs, je ne sais pas si on... Un peu tous, quand on arrive à un hôtel, la première chose qu'on voit, c'est si les salles de bain sont propres, s'il n'y a pas de champignons, s'il n'y a pas de moisissures, si les joints sont propres. Enfin, c'est presque une obsession contemporaine et en même temps une pratique qui amène une consommation des détergents toxiques, évidemment, pour le corps, on le sait, mais aussi pour l'environnement finalement, puisque tout ça part dans les égouts et finit par polluer l'environnement. Donc, je me disais aussi que c'était un endroit un petit peu figé depuis le temps, depuis le 19e siècle, les canalisations, la salle de bain était un petit peu figée, toujours un peu pareil, bac à douche, baignoire, lavabo, figé à l'architecture, figé par ses matériaux. Et je me disais si on ne pouvait pas ramener aussi un petit peu plus de souplesse, de chaleur, de liberté dans cet espace qui, pour moi, finalement, était peut-être le dernier espace qui reste dans la maison, où on est vraiment libéré, détente, bien-être, en fait, lié à toutes ces questions-là. Donc la proposition que j'ai imaginée, c'est plutôt de faire une salle de bain textile. Alors oui, les textiles que j'ai imaginés, donc la technologie que j'ai voulu utiliser, qui est utilisée depuis bien 20 ans, c'est une nanotechnologie utilisée dans les vêtements de sport qui rend les textiles complètement imperméables. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de textile, mais en fait, quand l'eau rentre en contact avec les textiles nanotechniques imperméables, perle, elle ne rentre absolument pas, elle n'est pas absorbée et elle glisse en fait. Donc c'est vraiment par capillarité et donc l'eau, comme la saleté, comme absolument tout, glisse. Donc ce principe me paraissait intéressant pour créer une surface en fait douce, chaleureuse, souple, qui vient en fait accueillir l'eau, le diriger vers le centre. Donc c'est un principe très simple. J'ai imaginé donc un socle ou une structure métallique dans lequel on vient housser ou déhousser des textiles imperméables stretch. Quand on vient le tendre, donc il vient créer la courbe que vous avez vue auparavant et du coup permet donc de l'eau de glisser. C'est un système donc au final qui me semblait assez ouvert et assez souple puisque finalement même pour le nettoyage, il suffisait juste de l'enlever et de le laver à la machine à laver. Il me semble qu'aujourd'hui, il n'y a rien de plus performant qu'une machine à laver. On sait bien que c'est celle qui utilise le moins d'eau possible avec une dosette de savon très contrôlée. Tout est très maîtrisé. Je ne sais pas si c'est la meilleure solution auquel l'humain arrivera un jour, mais aujourd'hui, c'est celle qu'on a, pour moi, dans l'habitat, la plus performante. Donc je me disais, peut-être aussi, comme on fait avec nos couettes, nos housses de drap de lit, etc., peut-être que la salle de bain pouvait aussi s'inscrire dans cette logique d'hygiène et de nettoyage pour simplifier la tâche et diminuer la consommation, donc, comme je vous parlais, de savon. Donc c'est une salle de bain aussi qui peut, par sa souplesse, donc travail de textile, donc peut permettre plusieurs typologies. Donc, comme vous avez vu tout à l'heure, un lavabo peut-être où on est debout, mais on peut imaginer un bac à douche, pareil, ou un usage plus classique de lavabo mural, dans lequel en fait toute la surface en fait est recouverte de textile. Après, c'est aussi un système qui me semblait plus large dans le sens où on peut aussi imaginer, on peut changer les couleurs, on peut vraiment adapter le format. C'est vraiment que trois propositions d'usage très plutôt schématiques, mais qui montrent bien aussi les possibilités que le textile peut amener. Et la question, donc, pour finir sur cette question de l'eau et de l'hygiène, je me suis aussi intéressé à la consommation d'eau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la tendance, on a plutôt encouragé les gens à associer à l'idée de confort et de bien-être à consommer de l'eau, c'est-à-dire les douches qu'on appelle de plafond, en fait, cascades, qui consomment des tonnes et des tonnes d'eau, enfin des litres et des litres d'eau par minute, par seconde. Aujourd'hui, on associe l'idée de confort, de luxe, de bien-être à une grande consommation d'eau. Et si vous le voyez dans le marché, les marques de luxe, ce qu'elles proposent dans le registre des douches, c'est ça. Dans la consommation d'eau, c'est ça. Je pense que c'est peut-être vrai ou pas vrai, je ne sais pas. Juste d'un point de vue écologique, je trouvais que c'était quand même un petit peu contradictoire et paradoxal d'associer ces notions à la consommation, surconsommation d'eau. Et en m'intéressant un petit peu à mon jardin, je trouvais étrange qu'en fait que pour les plantes, pour ceux qui des fois s'occupent des plantes, vous allez voir, en fait, on a peut-être une trentaine ou une quarantaine de jets différents en basse consommation d'eau, en fait, en bas de bille. Mais on a 40 types de jets différents pour les plantes. Finalement, chaque jet répond presque à un besoin parce que chaque plante a un besoin. Du petit brumisateur au jet 30 degrés, aux petites gouttelettes, courantes gouttelettes, enfin, etc. Enfin, vous allez dans tous les rayons de bricolage, jardinage, vous le verrez. Je veux dire, finalement, c'est quand même étrange que les plantes aient autant de possibilités que l'humain, finalement, réduise qu'à deux. Enfin, robinet qui tombe vers le bas et puis pommeau de douche ou douche fixée. Et je me disais que peut-être il y avait une solution à trouver là-dedans ou un glissement à se dire, bah, finalement, peut-être que si on est en basse consommation, ce qu'il faudrait, c'est plutôt éclater les fonctions et vraiment les étudier une à une, selon les besoins, et finalement produire un objet qui répond à ce besoin. Et plutôt d'amener le corps à l'eau, c'est plutôt amener l'eau au corps. Donc, si vous voyez donc, le petit, enfin, de gauche à droite, donc, c'est peut-être une savonnette, c'est peut-être la plus proche du pommeau de douche qui vient se prendre, vous venez la prendre, en fait, là, c'est juste pour que vous voyez les typologies. on vient l'apprendre et c'est plutôt pour se nettoyer. Le stylet, c'est plutôt pour un usage plus précis, par exemple pour se nettoyer les ongles, se nettoyer des coins un petit peu vraiment très précis. À côté, le brumisateur, donc par exemple le soir, on n'a pas forcément besoin de se doucher ou de se laver les mains ou de se laver le visage, on a juste besoin peut-être de se rafraîchir, etc. Donc par exemple, un outil comme celui-là permettrait de réduire la consommation. Et finalement, la géode, qui est la dernière, qui est la plus grande, elle a été pensée à un peu comme les systèmes de fontaine américaine. En français, on dit fontaine américaine, je pense, quand l'eau jaillit du bas vers le haut et que finalement, l'eau arrive à la bouche pour boire. Et je trouvais ça super intelligent. Enfin, je trouve ce système super intelligent pour boire parce que c'est vrai que du coup, il n'y a pas à se pencher, il n'y a pas à chercher. C'est vraiment logique que l'eau arrive au... Donc un peu sur ce principe du bas vers le haut, la géode permet en fait que l'eau jaillisse du bas vers le haut et qui permet du coup pour se laver le visage, le corps, etc. Un usage peut-être plus rationnel et plus fonctionnel. Donc ici, c'était plutôt de proposer une alternative à cette tendance, comme je vous disais, de grande consommation d'eau, plutôt de se dire bah, peut-être finalement le design peut ramener quand même certaines, enfin peut décortiquer plus en détail les besoins dont on a vraiment besoin, enfin les besoins qu'on utilise le plus pour essayer de produire des solutions peut-être qui consomment un peu moins d'eau. Dans cette logique donc de bien-être, un troisième projet que je vous présente ce soir, c'est un petit peu différent mais toujours un petit peu pareil, c'est-à-dire c'est plutôt sur le bien-être plutôt psychique en ce moment. Et là, la question du corps et du bain et de l'eau, finalement, m'a amené aussi à penser à cette question, parce que finalement, ce qui nous intéresse tous, c'est quand même ce bien-être. C'est d'être bien entouré de nos objets du quotidien, mais qui sont quand même intelligents et qui nous apportent un certain bien-être. En tout cas, c'est un petit peu mes préoccupations et mes obsessions. Et dans cette quête du bien-être, j'ai gagné donc en 2012 une bourse des Audi Talents Awards qui m'a permis de développer un projet de recherche sur une piste que je vous présente, qui est plutôt une expérience et que je pense qui peut répondre à certains problèmes. Donc l'hypothèse de départ, c'était de se dire que on a tous des moments d'état second. Alors oui, on change de tout, mais en fait les états seconds que certaines définissent comme le sommeil éveillé ou la rêverie quand on est réveillé. D'ailleurs, à l'école, on pense que c'est plutôt la déconcentration des élèves, mais en fait, c'est plutôt un état naturel du cerveau. On l'a tous. Tous les 45 minutes, le cerveau se met en état de veille, qu'on le veuille ou pas. Et c'est souvent, on le reconnaît souvent quand, par exemple, on lit un livre et on finit la page. Et on a fini de lire la page, mais on ne se rappelle plus vraiment de ce qu'on a lu. L'œil a fini de lire la page. On sait qu'on a fini de lire la page, mais on est incapable de se rappeler ce que c'est, de ce qu'on a lu, en fait. Bah, ça, c'est typiquement un indice que vous avez... vécu un moment d'état second, qui ensuite a été travaillé, donc qu'on peut appeler hypnose, qu'on peut appeler, enfin il y a plusieurs noms. Et finalement, cet état est très important de le reconnaître, de le stimuler, parce que c'est celui qui va nous permettre au cerveau rationnel de se détendre et de laisser libre cours à l'inconscient. Donc l'hypothèse et le projet que je vous présente est ici un petit peu le défi, c'est de se dire ben, finalement, est-ce que le design ne peut pas nous permettre aussi d'activer ces moments d'état second et de nous accompagner puis, suite à ça dans cette transe hypnotique. Pourquoi ? Parce que finalement, la maison aujourd'hui est envahie de fonctions. On le sait, enfin, il y a la cuisine, il y a travailler, il y a dormir, il y a jouer. Enfin, toutes les fonctions inimaginables elles sont déjà présentes dans la maison, mais très peu vraiment lié à la détente, au bien-être. Et finalement, si, l'hypnose, je peux rentrer après, parler énormément sur la question de l'hypnose, mais l'hypnose peut être utilisée, si vous le voulez, pour ce genre de but. Donc, je me suis d'abord... c'était une bourse de recherche d'un an dans laquelle j'ai essayé de voir, d'abord découvrir ce que c'est l'hypnose, vraiment, avec des thérapeutes, voir quels étaient les usages que les gens faisaient. C'est pas tant que ça m'intéressait, mais je voulais voir aussi les possibles. Et en fait, c'est une pratique, l'hypnose. On a besoin d'aller chez un hypnothérapeute, pas forcément parce qu'on a un problème. L'hypnose peut être utilisée, comme je vous disais, pour la détente, pour la création. Il y a un protocole et un objectif. Donc, l'objectif, c'est celui que vous voulez vous fixer. Si l'objectif, c'est être plus détendu, c'est bien. Si l'autre objectif, c'est libérer un problème émotionnel du passé, c'est possible. Si c'est arrêter de fumer de la cigarette, c'est possible. Donc les objectifs sont aussi larges que ce que vous pouvez l'imaginer. Mais par contre, le protocole reste toujours le même, qui est celui donc de diminuer le conscient, la partie consciente, pour laisser libre champ à l'inconscient de s'exprimer. Rentrer en contact avec l'inconscient, c'est quelque chose, donc, comme je vous disais, qu'on fait tous les 45 minutes, mais qu'on peut aussi contrôler. Une fois on est dans cet état, on peut l'élargir, le travailler et induire un certain processus à l'intérieur. D'abord avec quelqu'un qui vous enseigne, mais ensuite vous pouvez le reproduire tout seul chez vous. Je sais qu'il y a beaucoup de tabous autour de la question de l'hypnose, de la perte de contrôle, de la manipulation. Je vous rassure tout de suite, ça a été très, 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 très travaillé dans le cinéma et dans les foires aussi, donc l'hypnose comme ça, très spectaculaire. Mais en fait, finalement, ce que je vous dis, c'est quelque chose aussi de très simple et très banal. On le vit tous quotidiennement. Mais si on le remarque, on le repère, on peut vraiment faire des choses incroyables. Donc, dans ce protocole, donc d'abord, il faut apaiser le conscient, libérer l'inconscient et rentrer en contact avec lui et dialoguer. Ça peut être un rêve, ça peut être... Et avec cet objectif toujours qu'on se fixe au départ. Et ce qui m'intéressait, c'est que souvent, il y a des objets, en fait. Historiquement, il y a le pendule, il y a la cuillère de charcot, il y a quand même un certain environnement dans lequel les objets vont venir rentrer en contact pour nous aider justement à libérer l'inconscient. Un petit peu comme des fois, par exemple, un protocole, donc un exercice de... Plutôt protocole, exercice, c'est un peu pareil. Un exercice d'hypnose, on va souvent demander aux gens de choisir un objet qu'ils portent en soi. Par exemple, les femmes, un collier ou un bijou. Et de se rattacher à ce bijou, à l'histoire de ce bijou. On va partir du bijou pour essayer de libérer l'inconscient. Donc, pareil, on pouvait partir des objets qui nous entourent. Donc, pour aller plus vite... J'ai dessiné un ensemble d'objets qui peuvent venir dans la maison, créer à un moment donné des états de conscience si on le souhaite, pour encourager la transe et vous accompagner. Donc le premier, c'est un bol que j'ai travaillé donc en porcelaine de Limoges avec des artisans donc il y a la matérialité, il y a le bol et donc c'est l'induction par le regard. C'est plus long, désolé si c'est un peu confus. Après vous pouvez me poser des questions. Chaque sujet est très large, mais peut-être vous connaissez déjà l'hypnose et je me répète pour certains, mais pour ceux qui ne connaissent pas, on peut rentrer en état d'hypnose par induction des sens. Donc soit par le regard, soit par l'ouïe, ce qui est plus commun, par la voix, une voix répétitive, monotone, petit à petit, vous allez rentrer, par le toucher, pour ceux qui sont très, très éveillés par le toucher, mais également par les autres sens, donc l'odeur et le goût. Ce sont les moins développés dans les pratiques aujourd'hui, puisqu'évidemment, c'est les plus rares, mais on est tous plutôt... visuel ou auditif. Donc celui-là, il est plutôt visuel, vous allez vous concentrer, donc le regard va se concentrer dans le centre de l'objet et petit à petit, vous allez rentrer dans cet état. Donc c'est un bol qui peut aussi être pris dans les mains et qui peut aussi être caressé, accompagné. Ce qui était sympa, donc pendant les Designers Day, il y a 2 ans, dans l'exposition, on a organisé des séances où les gens avec des hypnothérapeutes venaient expérimenter les objets, jouer avec eux, s'hypnotiser s'ils le voulaient, s'ils prenaient rendez-vous avec les hypnothérapeutes et découvrir aussi comment petit à petit on peut réutiliser ces objets. Donc le bol, c'est le premier. L'autre, c'est le miroir. Donc c'est cette question de l'altérité et donc de la capacité à concentrer le regard sur quelque chose. Un petit peu comme le regard se concentre. Par exemple, un autre truc facile à repérer pour l'hypnose, c'est quand on conduit une voiture et que on ne sait plus trop pourquoi ou comment, on est sur une autoroute, on roule, et puis tout à coup, on écoute la musique, et puis la voiture continue. La voiture ne dérouille pas, mais vous partez, vous pensez à vos vacances, que vous devez faire les courses, que je ne sais pas quoi, que vous êtes engueulé. Et finalement, la voiture roule encore toute seule. Et ça, c'est parce que votre conscient est concentré, focalisé sur la voiture, et votre esprit est parti ailleurs. Là, vous êtes en état d'hypnose, sans que vous le sachiez. Donc cette question de concentration du conscient est importante et le miroir peut permettre ça. Donc ça, c'est par exemple des jeux de miroir dans lesquels vous venez prendre dans vos mains le centre et venez focaliser un point particulier que vous voulez. Et à partir de ce point-là, vous allez développer la transe. Le marbre est une matière intéressante. Ça, c'est parce que le marbre, il me semblait, était un petit peu peut-être comme le bois, mais peut-être plus le marbre. Chaque pierre est unique. Et un petit peu comme dans les nuages, on essaye de voir des animaux ou des visages ou je ne sais pas quoi. Le marbre, il a des veines qui permettent aussi de créer un certain état, une certaine perception qui est très différente selon la couleur, selon la carrière. Donc ces miroirs travaillent, donc sont uniques et le socle en marbre change aussi pour comme ça stimuler un certain imaginaire. Ce que vous voyez, c'est des images historiques de personnes qui se font, enfin, rentrent en état d'hypnose. J'ai aussi dessiné un pendule pour qu'on se concentre aussi donc dans la fixation du regard, puis ensuite détente, et un tapis. Le tapis était assez intéressant parce que finalement, c'est un petit peu comme dans l'exercice de sport. On sait que quand on va faire du yoga ou je ne sais pas quoi, on ouvre le tapis, on sait que c'est à l'intérieur de ce tapis que va se dérouler l'action. Ben, un petit peu pareil ici, on sait qu'on a un tapis. Sa fonction, c'est d'être un tapis, peu importe. Mais si c'est un tapis d'hypnose, on sait que quand on est dans ce tapis et qu'on va rentrer dans ce tapis, on va peut-être aussi rentrer dans un certain état émotionnel, mental, et ainsi de suite. Donc le tapis était finalement l'objet qui m'a permis de délimiter de la façon la plus simple l'espace minimum vital pour être en sécurité et pouvoir créer la transe. Donc voilà un des tapis. Il y en a eu plusieurs. Je vais un petit peu plus vite, il y en a eu beaucoup d'objets, mais sinon je finirai pas. Excusez-moi. Voilà. Et le dernier projet que je vous propose, qui est un petit peu peut-être une conclusion et un petit peu une frustration que je n'avais pas développée, comme je vous disais, on a les canaux sensoriels primordiaux, donc dans l'hypnose, c'est le regard, l'ouïe et le toucher. Et je n'avais pas eu l'occasion de travailler donc, l'odorat ou le goût. Et grâce à l'invitation donc, d'Éric Sébastien et de l'IMMA et du Musée d'Art Déco pour les projets de mutation, que j'espère que pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, vous irez le voir aux galeries, enfin, c'est les galeries de publicité, non ? Du Musée des Arts Décoratifs. On m'a invité à travailler. Donc le principe de l'exposition est très simple. Il y avait un choix d'objets historiques de la collection du Musée des Arts Décoratifs que nous était imposé. Un objet qui était important pour les collections du musée. Moi, en l'occurrence, c'était un brûle-parfum du 18e fait entièrement en argent qui est actuellement dans l'exposition. Et il s'agissait en fait avec un binôme, donc moi designer et un artisan orfèvre, artisan d'art orfèvre Nicolas Mariscael, de revoir, réinterpréter cet objet historique et proposer un nouvel usage ou un usage plus contemporain, une version plus contemporaine de ce qui est le brûle-parfum 18e. C'était un beau défi. On avait donc l'obligation que ce soit l'obligation de partir du brûle-parfum et que ce soit en argent, puisque c'était quand même la matière principale de l'objet historique. Par ça, on était libre de faire ce qu'on voulait. Nicolas, c'est quelqu'un de... Nicolas Mariscael, donc, qui travaille aussi, qui est orfèvre, qui travaille l'argent, l'or, et les bijoux et les objets. Il a une création personnelle. Et qui est très, très, très ouvert aussi à des dialogues et des collaborations avec des designers. Donc voilà, donc le point de départ était simple mais compliqué puisque en fait le parfum ou le brûle-parfum tel qu'il a été imaginé au 18e, aujourd'hui on ne peut plus le faire comme ça, c'est-à-dire on ne peut plus vraiment brûler le parfum de cette façon-là. C'est vraiment, c'est comme une mini fondue, donc avec un, je ne sais pas, je vais peut-être Eric Sébastien. En bas, il y a là où il y a l'alcool qui brûle, une flamme et puis un petit contenant, j'aurais dû montrer une photo, je suis désolé, je l'avais et tout, mais... qui brûle le parfum et qui ensuite, par la chaleur, commence à se diffuser. On s'est renseigné auprès de... On a travaillé avec donc, l'osmothèque de Versailles, avec des parfumeurs, pour savoir si ce procédé était encore viable. Et ils ont tous dit non, puisque finalement, on sait aujourd'hui que déjà, ça altère les odeurs de parfum. Brûler directement le parfum n'est plus du tout une méthode qu'on pratique. Autre aussi, les problèmes donc d'avoir une présence de flammes, le fait que ce soit dangereux dans les espaces de musée, mais aussi peut-être dans les espaces de maison, ce qui paraît un peu fou, mais quand même. Mais aussi la dénaturalisation et les problèmes donc liés En fait, quand on brûle, apparemment, il y a des substances toxiques qui se libèrent dans le parfum et qui sont aussi nocifs et des fois allergiques. Donc déjà, la porte d'entrée et la fonction et la façon comme l'objet était pensé n'était plus vraiment viable avec nos attentes et nos besoins d'aujourd'hui. Donc il fallait imaginer un nouvel mode de diffusion de parfums et voir aussi comment aujourd'hui on appréhende cette odeur. Donc là, pour l'instant, ça paraît un petit peu abstrait. L'objet, il est déjà à la base un petit peu abstrait, mais donc il s'agit d'un brûle-parfum suspendu qui complètement en argent, qui à l'intérieur garde une technologie de bille de parfum. Donc, il semblerait que c'est une des dernières technologies qu'on utilise aujourd'hui dans le marché. Elle a été brevetée. C'est une technologie en fait qui est en granulé. Donc c'est dans des petits grains de plastique avec une technologie brevetée, donc on ne sait pas trop comment, mais on arrive à imbiber toute odeur en fait. C'est des billes qui sont secs, donc elles sont pas imprégnées d'une huile ou d'alcool. Enfin, vraiment, on dirait vraiment des billes absolument. Enfin, il y a d'ailleurs une photo. Je vais peut-être être plus bordélique encore que jusqu'à présent, mais. Voilà les billes. En fait, ça, c'est à l'intérieur de l'objet, c'est des petites billes. Et on peut choisir le parfum qu'on souhaite et imprégner ces billes. Les billes, elles ont plusieurs avantages. Déjà, un, elles ne perdent pas aussi vite la capacité de diffuser le parfum. Elles ont un rendement très élevé. Deuxièmement, elles ne sont pas du tout allergiques ou nocives parce qu'elles dégagent que les molécules de parfum. Et ce qui était intéressant avec cette technologie, c'est qu'elle nécessite juste d'avoir un courant d'air. Il faut juste qu'il y ait un petit courant d'air qui vient effleurer ces billes pour que le parfum qui est capturé soit libéré et diffuse de façon très lente et très indirecte l'espace. Donc, à partir de cette technologie qui est déjà existante et qui s'utilise avec des ventilateurs, souvent dans les bars ou dans les salons, on voit souvent ça en fait. Donc c'est des ventilateurs qui sont constamment en mouvement et qui les billes sont devant et ça asperge. Mais ils ont toujours besoin de ce fameux ventilateur, de cette batterie, de cet un peu usinage derrière. Je trouvais ça un petit peu dommage et je me disais pourquoi pas, est-ce qu'on peut pas imaginer un objet qui soit lui-même peut-être ventilateur et que dans son usage, par sa forme, par l'endroit où on l'utilise, il ne va pas générer lui-même un courant d'air qui va ensuite permettre de libérer les odeurs cachées dans les billes. C'est ce qui a été pensé. Donc je vous montre, je vous montre un petit film pour que vous voyez. Après je vous raconte l'histoire rapidement et après c'est fini. Non, j'essaye justement. Donc voilà l'objet en mouvement. Donc c'est un. Et lorsqu'il est placé près d'une fenêtre, par exemple, ou lorsque vous voulez juste le faire tout. Il se met à tourner sur son axe central et il est ouvert en bas et en haut. Je vous montrerai tout à l'heure les photos. Les billes sont placées au centre et lorsqu'il tourne, il vient créer un courant ascendant qui se répandent. Ce courant rentre, du coup brasse les billes qui ont le parfum et permet de diffuser à une vitesse très douce et indirecte les molécules parfumées. Il était pour moi hyper important que ce ne soit pas quelque chose qui était constamment en mouvement, puisque on sait bien, en fait, il y a déjà l'accoutumance, on s'habitue très vite au parfum, mais aussi il y a cette question aussi d'invasion et des fois aussi on a tous des seuils de tolérance des parfums qui est très subjectif. Pour une odeur qui pour quelqu'un est très agréable, pour quelqu'un d'autre ça peut être vraiment pénible. Et donc la question de l'accoutumance et de la subjectivité de l'odeur me semblait importante. Donc je ne voulais pas que ce soit un objet qui soit tout le temps en mouvement. Ici, si vous le verrez au musée, il est tout le temps en mouvement pour que les gens comprennent qu'il bouge. Mais dans l'usage domestique, j'imaginais bien qu'à un moment donné, on avait juste envie qu'il soit là, présent, qu'on le regarde. Mais qu'à un moment donné, si on a envie qu'il dégage son odeur, juste à lui donner un petit coup, et l'odeur de particules s'ouvre. Donc la collaboration a été, une fois la technologie a été trouvée, on l'a compris, on l'a analysée, il fallait donc lui donner forme et travailler vraiment avec Nicolas pour que je comprenne aussi comment on pouvait donner forme à cette matière de l'argent, comme on était en argent. Et finalement, on est arrivé à cette forme qui part de ce principe très simple, donc c'est un patronage. Voilà le patron initial de l'objet, qui ensuite est... Bon, ça, c'est toutes les recherches. Il y a eu plein de formes, plein de couleurs, plein de classiques de tous les designers. Mais et avec ces outils, bien sûr, je ne me rappelle pas les noms, mais il vient planer. En fait, il vient le patron qui est découpé plat, il vient juste avec un marteau et un... Et puis, comment il s'appelle ? Tu te rappelles ? Je ne me rappelle plus. Les barres. En... Hein ? Un purin, peut-être.
Non, en fait, l'artisan a utilisé une forme qui, normalement, sert à fabriquer des épées. Enfin, c'est une forme de tame et qui est spécialement adaptée.
Adaptée. Il a fabriqué cet outil-là, il a trouvé dans ses archives, parce que ces outils-là, ils existaient. Enfin, ils existent, mais il ne les sort pas tous les jours. Chaque forme répond vraiment à une dimension. Et avec ces trois marteaux seulement, celui-là, il est vraiment de lissage à la fin, en martelant. Seulement en martelant, il vient fermer donc la feuille et vient créer avec une seule ligne de soudure que vous voyez là pour que la forme reste collée et stable. On laisse les deux ouvertures, donc ici vous voyez l'ouverture et de l'autre côté c'est pareil, pour que justement l'air circule. Au final, moi j'étais quand même... C'était la première fois pour moi que je travaillais avec un orfèvre et... J'étais quand même complètement bluffé. Je ne croyais pas, quand je voyais l'image, qu'on allait arriver à un objet aussi brillant, aussi immatériel, aussi... C'est assez étonnant. Et en même temps, on arrive quand même à percevoir les traces de la main. Il a quand même arrivé, même s'il plane et même s'il a passé des heures et des heures à lisser, on voit que ce n'est pas un objet qui a été fait industriellement. On sent vraiment la main, les heures, je pense, de travail qu'il a passé derrière... pour que toutes ces congés, enfin toutes ces lignes que vous voyez noires, plutôt droites, n'ont pas été du tout usinées qu'avec ses mains. Donc finalement, c'est une innovation aussi de dialogue et de collaboration. La taille de l'objet devait répondre à ces outils que vous avez vus avant. On ne pouvait pas faire n'importe quelle taille. Il fallait trouver la bonne taille pour que ce soit... pas très grand, pas trop petit, pour qu'elle tourne pour l'odeur, mais aussi pour que Nicolas puisse vraiment bien travailler la forme. Et au final, on est très content de cette... donc là, bon, ça, vous avez vu. Et là, donc, l'ouverture. Mais avec l'écran, on voit un peu moins. Mais... Et voilà, voilà l'histoire. Donc, quatre projets très différents, quatre sujets très, très différents, mais qui montrent un petit peu aussi comment à partir de ma discipline, qui est celle du design... On peut aussi, soit par ouverture de nouveaux territoires pour le design ou avec des matières qu'on connaît depuis longtemps, essayer de voir comment on peut retravailler différemment les choses. Merci. Pardon.
Merci. Je propose qu'on passe aux questions à la fin, quand Ludovic Avenel et Grégoire Talon auront terminé leur intervention. Et puis, je voulais saluer... Éric Sébastien Forlagors, là, qui est le commissaire de l'exposition Mutation, qui est au-dessus, et qui est ouvert jusqu'au 5 juillet dans cette noble maison. Ludovic, merci.
Donc, bonsoir à tous. Je suis donc Ludovic Avenel, je suis ébéniste et donc je suis un faiseur avant tout. J'ai essayé de vous présenter très simplement et humblement un peu la manière dont je pratique aujourd'hui ce métier, qui est un métier traditionnel, mais qui peut aussi être très contemporain. Alors l'innovation, c'est vrai qu'elle se situe pour moi à différents postes et à tous les postes autour de ce métier. Et je vais vous raconter juste un peu la petite histoire de la création de mon activité. Vous allez mieux comprendre, c'est que je suis sorti de l'école et j'ai monté aussitôt mon entreprise avec plein d'envie, beaucoup de passion, mais aussi beaucoup de méconnaissances. Et j'ai beaucoup appris de ces méconnaissances parce que j'ai compris que c'était facile de faire, mais que c'était pas facile de vendre, que c'était pas facile de vivre de ce métier, et que c'était une part aussi importante que la partie création et fabrication. Et c'est là où j'ai réellement appris les enjeux et que j'ai pris conscience de toute cette notion entrepreneuriale qui va avec une discipline et qui est tout aussi importante. Et donc, au-delà des savoir-faire, le faire savoir, du coup, est aussi également important. Trouver des clients et réussir à en vivre. Voilà. Tous ces enjeux mêlés à des envies, mêlés à des envies de recherche, de création, d'innovation, bien sûr. Et tout ça allié avec une réalité du marché, une réalité des pratiques de ce métier. Alors, pour ce faire, et c'est encore en chemin, puisque ça ne cesse de se construire successivement, et pour cela il faut du temps, j'ai deux activités principales. La première, c'est la création de pièces personnelles qui me permettent d'essayer, de rechercher, de proposer, etc. Et la deuxième, c'est la réponse à des commandes spéciales, le sur-mesure. Et ça, j'y ai énormément travaillé en termes de recherche. On ne peut pas forcément parler d'innovation, mais de recherche, en me disant, voilà, aujourd'hui, mon métier, comment je peux le pratiquer, à qui je peux rendre service. Alors, en effet, on pense ébénisterie, on pense table, on pense chaise, on pense, etc. Mais alors qu'il y a beaucoup d'autres secteurs que vous verrez par la suite, je vais vous montrer par des exemples très concrets, auquel le métier peut rentrer. Je pense à l'industrie automobile, je pense aux petits objets, je pense pour les artistes, pour les designers. En tout cas, il y a des champs et des possibles pour les métiers d'art, et notamment dans l'ébénisterie, qui sont très intéressants en termes d'ouverture. Et au final, ce qui est intéressant, c'est que les deux s'allient. C'est-à-dire que la commande sur mesure, le dialogue, ce sont des expériences qui, pour moi, sont une R&D, une recherche et développement financée, entre guillemets, qui me permet tout simplement de financer mes pièces personnelles et qui me permet de proposer aussi des choses et en même temps de proposer à mes clients des possibilités techniques, de matière, etc. Donc les deux se nourrissent l'un de l'autre et plus ça va. Et à un moment donné, je m'étais dit je vais me séparer de la partie sur mesure, etc. Et au final, aujourd'hui, elle est essentielle aujourd'hui de mon activité. Et je ne vois plus faire forcément autrement et sans cela, parce que j'aurais l'impression d'appauvrir mon travail personnel. Et je trouve que cette ouverture et ces échanges à chaque fois sont très fructueux et très intéressants. Donc, alors, ça on a déjà vu. Il y a une donnée qui est très importante et qui est très pratiquée par tous les designers, etc., et créateurs. Je vous montre une image, ça, parce que c'est une image de synthèse. Et ça, ça a considérablement modifié nos méthodes de prévisualisation, etc. On utilise toujours le plan, on utilise toujours les maquettes, etc. Mais aujourd'hui, faire une maquette en 3D, ça aide quand même considérablement à pouvoir visualiser, prévisualiser, présenter. Donc c'est qu'un outil à la fois créatif, qui reste un outil, mais qui en même temps peut être un outil qui peut avoir une force de vente. Parce qu'au lieu d'avoir un ça permet en tout cas de plus facilement se projeter pour la plupart de mes clients. C'est pour ça que je voulais montrer cette image. Et souvent, l'innovation, elle naît aussi de beaucoup de contraintes. Et la première contrainte dans mon activité, c'est souvent le prix. Alors, ça fait partie, je trouve, de la donnée. En tout cas, moi, dans mon métier d'ébéniste, à un moment donné, ça se fait ou ça se fait pas parce qu'il y a une contrainte ou pas de budget. Alors, en effet, il y a des gens qui ont zéro limite de budget, et c'est très bien. Je suis pas sûr, d'ailleurs, que ça soit toujours très bien, parce qu'on fait pas forcément une plus belle pièce avec beaucoup de budget qu'avec zéro budget. Et cette pièce, c'est un peu l'exemple où, à un moment donné, j'avais une demande. On devait réaliser un élément d'aspect très miroir pour le piétement, pour une galerie. C'était hors de prix, c'était impensable. Et donc, on a dû chercher des possibilités de rendu inox qui soit autre que réellement en inox. Et on s'est penché, on n'a pas trouvé en France, on a trouvé aux États-Unis, qui sont des procédés de finition de chromage sur bois. Donc, à l'époque, ça n'existait pas en France. Aujourd'hui, c'est... ça existe et quelques entreprises le pratiquent, c'était utilisé dans l'automobile. Et donc nous avons cherché, développé cette technique sur des supports bois. Et on l'a fait sur de nombreuses pièces, dont celle-ci. Alors ça, c'est un projet que je voulais vous montrer, qui est un bureau, le bureau Élytre, qui est en bois souple, qui est né aussi à la fois d'une question de mise en œuvre et d'une question de manière de voir autrement le processus de réalisation de coques en bois. Les éléments que vous voyez courbes qui sont aux extérieurs, les extrémités de ce bureau, sont courbes, sont nés de cette petite maquette que l'on voit ici. La problématique du bois, souvent, elle est utilisée de manière rigide, structurelle, physique, on vient enlever la matière, etc. Là, l'idée, c'était d'utiliser le bois comme naturellement souple, comme idée naturellement au plaquage. C'est vrai que le métier d'ébénisterie, c'est beaucoup le travail de ces plaquages, de ces revêtements, de mise en œuvre sur des supports rigides. Et là, l'idée, c'était de se dire, à ce moment-là, on va juste utiliser ce bois et on va le laisser tel quel, on va le mettre en forme et on va laisser les tensions de ces mises en forme naturellement visibles et on ne va pas tricher avec la matière, on va la mettre en œuvre de cette manière. Ce qui a donné naissance à ce bureau un peu particulier, mais qui, en tout cas, a permis de pousser une recherche sur la matière en elle-même, de voir comment on pouvait rendre cette matière souple et de voir comment on pouvait justement techniquement faire autrement. Et c'est vrai que dès qu'on va dans le souple, on a envie de le zipper, on a envie de le coudre, on a envie d'en faire un tas de choses, et ça revisite, je dirais, techniquement le vocabulaire des possibles en ébénisterie. Et ce qui est intéressant dans l'ébénisterie, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel outil, il y a un nouveau langage, ce nouveau langage apporte forcément une identité différente et parfois des fonctionnalités différentes. Et lorsque j'ai fini ce projet, j'étais très frustré. Parce qu'en fait, on avait réussi à mettre en œuvre un processus bois souple, sauf que ça ne se voit pas. Enfin, avant que vous l'ayez vu, mais moi, je le connais par cœur, ce projet, mais on ne voit pas que c'est souple, on ne voit pas que les éléments qui sont sombres en ébène sont souples. C'est juste une mise en œuvre. Et il y a eu un second projet qui est une réponse à cette frustration, qui est de se dire, de cette souplesse, quel usage peut-on en avoir et comment qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec cette matière ? Et né ce bureau où justement on n'est pas dans la démonstration de la souplesse par la mise en forme, mais par justement le fait de venir effeuiller, venir enlever ce support qui est au-dessus de ce bureau. Et justement là, on joue avec les codes, le langage de la matière bois qui est complètement souple, et en même temps on apporte un usage qui est le sous-main traditionnel du bureau qui pour le coup est dissimulé dans sa structure. Donc là on a une association bois et cuir, avec une surpiqûre. Alors vous verrez que tous mes projets ne servent pas à grand chose, mais c'est ce que j'aime particulièrement, c'est d'être dans la recherche des sens, d'être dans la recherche de l'émotion, de jouer avec à la fois notre histoire, nos codes, ceux de notre histoire du 18e, 19e, il y a eu beaucoup d'innovations, beaucoup de langages très différents, et de voir comment on peut jouer avec tous ces langages et en même temps donner des relectures contemporaines, soit par les formes, les matériaux, ou la peau, on en parlait tout à l'heure, la peau des projets, une texture, un revêtement, etc. C'est extrêmement aussi intéressant à pousser. Et un simple plaquage, la manière dont ça va être traité, dont ça va être fini, n'aura pas le même aspect. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à tous les stades d'un projet, de son squelette, de sa matière jusqu'à sa finition, on peut jouer, on peut travailler, on peut chercher. Et c'est assez infini d'ailleurs, il y a des possibilités vraiment incroyables et intéressantes. Ça c'est un petit projet qui est parti du souhait de travailler avec des matériaux, enfin avec la matière bois massif, mais de travailler sur sa déformation. En général, moi en ébénisterie, il faut que ce soit parfait, en tout cas c'est ce que j'ai appris à faire, avoir du bois sec qui ne bouge pas, il ne faut pas que ça se fende, etc. Là on est complètement dans l'inverse. C'est une recherche de texture et de faire en sorte que le bois travaille dans le temps et puisse justement matérialiser sa déformation. Donc là, on est sur un bois qui est brûlé, qui est carbonisé. Et lorsqu'on le brûle, justement, le bois vient se rétracter, vient bouger et vient donner une lecture de l'assemblage de la pièce. Donc là, on est dans une plasticité, en fait, qui est matérialisée par un paravent, mais que nous avons réalisé sur différents types de projets et de mobilier. Alors quand je parlais tout à l'heure de commande spéciale ou de sur-mesure, ça c'est cette seconde partie, et bien en fait par nécessité et en même temps par intérêt, je me suis posé la question pour qui je pourrais travailler. Et je me suis dit ok, les particuliers très bien, les architectes décorateurs bien sûr, parce que ce sont pour moi aujourd'hui les premiers commanditaires de projets mobiliers pour des appartements, pour des hôtels, pour des boutiques. Mais voilà, quoi d'autre ? Et puis je me suis penché vers l'industrie, vers des boutiques et autres. Et là, ça, c'est un dernier projet, une start-up qui avait envie, en tout cas avait pour projet, de créer des stylets d'iPad et justement que ces stylets soient totalement manufacturés, fabriqués d'une manière artisanale et justement technologique. Parce qu'un stylet, il y a une connexion, il faut qu'il y ait un magnétisme entre l'écran et l'outil, etc. Et comment le faire sans pour autant intégrer une pile, sans pour autant intégrer un mécanisme compliqué. Donc on a fait tout un travail de recherche, dessin et autres, donc on arrive sur une petite collection précieuse de stylets pour iPad et tablettes qui sont réalisés en argent, en or, en bois précieux. Et on est en train d'en dessiner d'autres et d'en fabriquer d'autres. Donc là il y a une phase de prototypage, de dessin, de maquette et de réalisation. Alors ça je le montre juste, c'est pas forcément intéressant comme projet, mais c'est de montrer qu'il y a des champs d'application intéressants, le secteur du vin par exemple, moi j'adore un bon verre de vin, mais ça c'est une commande d'entrepreneurs français qui sont en Chine, qui importent du vin français, et m'ont posé la question de comment on pourrait travailler ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Et je leur ai proposé de travailler sur le fait d'intégrer des caves dans les salons. Dans un salon, c'est vrai qu'en général sa cave à vin elle est... soit dans une arrière-cuisine ou soit dans une cave, tout le monde n'a pas une cave. Comment faire vieillir des bonnes bouteilles et en même temps assurer une température bonne chez soi, à part mettre ça dans sa cuisine ou une petite cave, et comment l'intégrer dans un mobilier. Donc là, on est sur un mobilier destiné à une clientèle chinoise sur lequel sont intégrées deux caves à l'intérieur. La seule chose que je trouve intéressante sur ce projet, outre sa fonction de rentrer dans l'habitat, c'est plutôt la gravure qui est faite sur le bois. Et c'est une technique assez simple qui existe depuis une vingtaine d'années, mais qui a pas été, que je n'avais jamais essayé ou pratiqué ou forcément vu, qui est de la gravure laser sur bois. En général, ça brûle, ça ne marche pas, on n'y arrive pas, il faut le faire en marqueterie ou autrement. Et là, j'ai réussi avec une entreprise à faire d'une manière propre, en tout cas de la gravure sur bois, qui permet de créer une ornementation, un décor, d'une manière très qualitative et assez efficace. Donc là, on est sur une gravure bois sur la totalité. Ça, je vous remonte cette pièce. C'est un peu dans le même principe que les pièces premières que je vous ai montrées sur de la métallisation bois. Pas forcément intéressant, ça non plus. Oui, ça, je voulais vous le montrer. Ça, c'est un desk d'accueil pour un hôtel. L'architecte, et en tout cas l'hôtelier, était venu me voir pour fabriquer un desk en bois. Au final, il n'y a pas de bois sur ce projet. Et ce qui est intéressant aujourd'hui dans l'ébénisterie, c'est que nous sommes des chefs d'orchestre de projet et qui devons ou pouvons proposer des solutions. Et n'arrivons pas à trouver des propositions de texture, de matière, de rendu. J'ai travaillé sur tout ce qui pouvait être cuir gaufré, etc., dans le prolongement d'un travail que j'avais fait sur du bois gaufré marqué. Donc on ne le voit pas forcément très bien, mais toute la devanture de ce projet est en cuir marqué gaufré et qui correspond à l'identité de l'hôtel. Et on m'a confié donc le projet dans sa globalité, avec des enjeux qui sont différents de tous les enjeux que j'ai d'habitude. C'est-à-dire que pour un hôtel, il y a de l'entretien, il faut pouvoir changer une dalle de façade sans devoir tout changer, parce qu'il y a du monde tout le temps. Donc le design et la technique de ce projet a été pensé pour le service d'entretien, pour le fait de pouvoir changer des pièces au fur et à mesure sans avoir à tout changer, etc. Donc le dessin naît souvent, de toute façon, dans tout projet aussi des contraintes, et qui permettent de trouver des solutions aussi esthétiques. Innover dans mon métier, c'est souvent aussi relire, redonner à voir ou réinterpréter. Et ça, c'est l'exemple d'un fauteuil qui est très inspiré Jean Genaret avec Isabelle Marant. J'ai fait ça pour ses boutiques. Et l'innovation, je trouve qu'elle passe aussi beaucoup par là. C'est-à-dire que pour moi, il faut avoir beaucoup d'humilité par rapport à ce mot et à ce terme. Souvent, on prend des choses existantes, qu'on transforme, qu'on revoit, qu'on relit. Et ça, c'est un projet où nous avons revu l'ensemble de la structure en chanvre de lin, qui est tressée d'une manière particulière et qui est dans le prolongement de ce qui a déjà été fait. Donc, ce n'est pas une réelle innovation. C'est juste qu'on a été un tout petit peu plus loin dans la méthode de mise en œuvre et du graphisme qui en résulte. Ça, je montre juste ce projet parce qu'il est complètement réalisé. C'est pour un pool house de piscine en commande numérique. Et ça, c'est aujourd'hui des outils qui font partie intégrante de ma manière de réaliser des projets. J'ai un atelier où on a des outils traditionnels, d'ébénisterie. Mais aujourd'hui, mon atelier, il est Il est externalisé entre guillemets entre Lyon, Paris, même à l'étranger, parce qu'avec un fichier numérique, on peut faire une partie des pièces à l'étranger, etc. Et aujourd'hui, le numérique dans nos métiers est vraiment un outil intéressant et qui peut permettre parfois de répondre à certaines problématiques des métiers d'art, notamment dans mon métier, qui est une rapidité d'exécution et une qualité, et qui permet de concentrer le fond du métier de l'ébénisterie sur des éléments plus importants, plus précis ou plus précieux. Ça, ce sont des tables avec Carole Benzaken. La particularité de ces tables, c'est qu'elles sont rétroéclairées avec un logiciel qui permet justement de créer une vibration oscillatoire des différentes tables. Donc ça, c'est pour montrer que ces dialogues, justement, entre artisans, artistes, designers, architectes, décorateurs, particuliers, entrepreneurs, ces transversalités-là existent et sont réellement présentes dans tous les métiers d'art, et en tout cas dans mon métier, et qu'un ébéniste va devoir aussi trouver les bonnes personnes pour travailler l'éclairage, pour travailler la laque, pour travailler le verre. C'est Saint-Gobain, par exemple, qui a réalisé la partie qui est au-dessus. Et c'est très intéressant et très passionnant. Alors ça, c'est un vélo réalisé avec PSA, qui est un concept bike. Et on a une partie centrale, le panier, qui est réalisé complètement en bois. Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'ébénisterie rentre complètement, en tout cas en termes de champ d'application et d'innovation, dans les secteurs de l'industrie, et que l'artisanat est le laboratoire, en tout cas, de ces grandes entreprises. Et je fais 2-3 projets en ce moment avec PSA, Toyota, sur à la fois des recherches, développement bois, texture, mise en œuvre. Et à chaque fois, il en résulte des choses relativement très intéressantes à différents stades, aussi bien sur la technique que sur les recherches matières, textures, technologies en tout cas, qui peuvent être complètement réappropriées dans plein d'autres domaines. Un autre travail de recherche, là on est sur un travail de recherche de finition, c'est pour la galerie Créo, c'est une table de Ella Jungerius. Et la problématique de ce projet, on vient souvent me voir pour ça, c'est comment est-ce qu'on peut fabriquer ce rendu où on passe d'un bois à un élément complètement laqué, opaque. Donc on est sur une fusion et là il faut mettre en œuvre le processus. Et ça, c'est la majorité de tous nos projets. Ce sont des moutons à 5 pattes où on n'a jamais fait, on ne sait pas faire et il faut chercher les solutions. Ce n'est pas forcément de l'innovation, mais c'est utiliser un savoir-faire et des techniques existantes pour en faire autre chose, pour en donner à voir autre chose. C'est pour ça que je voulais vous montrer ce projet. Et ça, c'est un tout dernier projet sur lequel je suis en train de travailler avec une société qui s'appelle Malteran. On est sur des globes terrestres d'exception de plusieurs mètres de diamètre. Et pour réaliser l'ensemble de ces pièces, il y a un certain nombre d'éléments où il y a de l'innovation, de la recherche en tout cas, aussi bien pour la fabrication des globes qui sont en résine, pour la manière de tracer les pays qui sont justement peints à la main, etc. Mais il y a la précision au laser en 5 axes sur des machines-outils. Et en contraste de cela, on a des socles qui sont traditionnellement en ébénisterie avec des mécanismes de rotation qui sont proches de l'horlogerie. Donc là, ce sont des projets sur lesquels je suis en train de travailler actuellement. Donc tous ces petits exemples montrent que en fait, il n'y a pas de limite dans nos métiers, dans l'exercice de ce que nous pouvons en faire. Les limites souvent sont plus le temps, et je regarde Marc qui est présent parmi nous du SLOMED. Et ça, c'est une donnée vraiment essentielle, puisque je dirais que pour innover, il faut prendre le temps d'eux, il faut avoir le temps du recul, il faut se faire des expériences, et ça ne se fait qu'avec un certain temps. Donc c'est pour ça que là, ça fait 8 ans, et j'espère qu'on continuera. Et en tout cas, c'est passionnant d'apprendre tous les jours et de se rendre compte qu'au final, ce qu'on a appris à un moment donné, la fois d'après, on a l'impression que c'est la même problématique, et en fait, elle est totalement différente, et que c'est un exercice permanent de recherche et de remise en question, bien entendu, puisque souvent, la matière, elle nous remet bien à notre place, puisqu'on la maîtrise que partiellement. Voilà, merci.
Merci beaucoup. Vous êtes combien dans l'entreprise chez toi? Vous êtes combien de...
On est 6.
Bon. Grégoire, à toi donc, l'honneur de clôturer par ton exposé. Puis il y a beaucoup de questions, hein, j'imagine, qui sont venues à travers les deux premiers entretiens.
Je vais commencer par demander une aide technique.
Une aide technique, je ne sais pas si notre ami... Ouais.
Donc bonsoir, je m'appelle Grégoire Talon, je suis effectivement designer, mais ce n'est pas vraiment cette carte de visite qui m'amène à vous parler ce soir. Je suis surtout responsable de projet chez les Compagnons du Devoir sur pas mal de projets liés à l'innovation. Et l'innovation chez les Compagnons du Devoir, c'est beaucoup, beaucoup de collaboration entre métiers, puisque vous connaissez sans doute la maison, les Compagnons du Devoir, mais vous ne savez peut-être pas qu'il y a aujourd'hui 29 métiers différents chez les Compagnons du Devoir. Donc les collaborations, elles se font déjà au sein des maisons de compagnons, dans les ateliers, dans les salles de cours, dans les rencontres, de manière assez informelle. Donc cette notion d'innovation dans les savoir-faire, elle n'a pas vraiment de modèle établi aujourd'hui, mais on a essayé petit à petit de lui donner une forme, de lui donner une reproductibilité pour permettre au plus grand nombre d'en bénéficier. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même vous parler un petit peu des Compagnons du Devoir. On a effectivement 29 métiers dans 4 secteurs d'activité. Ce soir, on est là pour parler des métiers d'art, mais chez les Compagnons du Devoir, il s'agit d'une partie seulement des métiers représentés ou des pratiques, puisque certains métiers, comme les métiers, par exemple, de métallier, vont parfois se diriger vers les métiers d'art, mais parfois aussi vers l'industrie. Les secteurs d'activité représentés sont l'industrie, effectivement, les métiers de bouche, les métiers des matériaux souples, les métiers également du bâtiment et de l'aménagement. Donc à l'intérieur de tout ça, je vais en citer quelques-uns pour vous donner une idée. Ça va des vignerons qu'on a accueillis très récemment, jusqu'aux fondeurs aussi qui sont récemment arrivés dans le compagnonnage, en passant par des métiers qu'on attend un petit peu plus chez les compagnons, des tailleurs de pierre, des maçons, mais aussi des boulangers, des maroquiniers, des tapissiers. Donc c'est très très vaste. Les Compagnons du Devoir, c'est le fameux Tour de France, ça doit vous parler. Le Tour de France, aujourd'hui, ça se concrétise par 80 maisons en France, dont 60 qui ont des tailles assez conséquentes. Une maison de Compagnons du Devoir, il faut savoir que c'est constitué d'un côté d'un dispositif d'apprentissage, donc à la fois des ateliers, mais aussi des salles de cours, et puis surtout d'un lieu de vie en commun, parce que c'est dans l'échange, encore une fois, que se fait une grande partie de la formation chez les compagnons. Cette notion d'innovation, on s'est souvent posé la question, et puis je dois dire qu'il y a... Il y a une métaphore qui nous plaît bien et qu'on utilise peut-être un peu trop, c'est la notion de cathédrale, comme un petit peu les fusées du Moyen-Âge. Donc, en forme de boutade, je nous ai interrogé sur cette question, à savoir s'il y avait un lien entre les cathédrales médiévales et le voyage intergalactique. Est-ce que les Compagnons du Devoir et les prochaines cathédrales ne seront pas des fusées? C'est un peu tiré par les cheveux. Mais c'est vrai que l'innovation, on en trouve partout. On a eu de très beaux exemples et j'étais très impressionné par le travail de Felipe et le travail de Ludovic. Je connaissais un peu plus le travail de Ludovic, pas trop celui de Felipe. Et je trouve que les deux démarches nous prouvent bien que l'innovation n'est pas forcément quelque chose de criant, quelque chose de très voyant, de clinquant. L'innovation, ça peut être caché. Et c'est souvent quand c'est à l'intérieur des choses que c'est le plus efficace. Donc chez les Compagnons du Devoir, l'innovation, c'est pas vraiment un sujet à l'origine. Je dirais qu'à la base, il y a une culture de l'expérimentation. Je pense que cette culture de l'expérimentation, elle existe dans tous les métiers de savoir-faire, chez les designers aussi, dans pas mal de domaines. L'expérimentation, finalement, c'est une approche de l'abstrait et du concret, un aller-retour régulier. Et à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas de limite. Je suis convaincu qu'il y a certains comptables qui font de l'expérimentation et qui sont très créatifs dans leur manière de faire leur boulot. Et ça a toujours été, ça sera toujours, on n'a rien inventé de ce côté-là. Donc je ne vois pas grand-chose à ajouter sur le sujet de l'expérimentation. Et sur l'innovation, en revanche, pour moi, c'est une démarche, en fait. Cette notion de démarche, elle est très singulière. C'est-à-dire qu'elle appartient à quelqu'un, c'est un cheminement. Ludovic parlait de 8 ans de démarche tout à l'heure. On le voit bien dans les propos de Felipe qu'un travail ne se développe pas uniquement sur un coup de génie, une idée soudaine, mais c'est vraiment quelque chose qui demande du temps, de la confrontation avec les éléments, avec les concepts, avec les savoir-faire, avec la table à dessin, avec les outils, etc. Et ces démarches singulières, on s'est dit pourtant qu'elles méritaient d'être partagées par un plus grand nombre. C'est-à-dire que tant que vous ne mettez pas en place un environnement, un dispositif, un contexte pour que des jeunes et des moins jeunes qui sont a priori pas disposés à entrer dans cette démarche puissent en découvrir l'intérêt, donc tant que vous ne mettez pas en place ce contexte-là, finalement, vous n'allez toucher que les gens convaincus, et j'imagine que c'est le cas de tout le public ce soir. On est en train de se parler entre nous, on est tous à peu près convaincus du sujet de l'innovation, c'est plutôt très agréable, mais finalement, on sortira de là en s'étant confirmés les uns les autres dans nos a priori très positifs sur l'innovation, mais on n'aura pas trop fait avancer le sujet. Donc, en même temps, c'est des rencontres très sympas, hein, et ce n'est pas du tout une critique, au contraire, mais c'est plutôt une invitation à aller vers des gens qui sont réfractaires à l'innovation, qui, quelque part, considèrent que c'est un processus inutile, quelque chose qui nous empêche de tourner en rond, qui nous fait perdre du temps, de l'argent, prendre des risques inconsidérés. Finalement, l'innovation, pour moi, c'est un sujet qu'on doit aller porter là où on a du mal à se faire entendre. Donc, je me suis posé la question... que Darwin s'est posé bien avant moi sur la notion de l'évolution, une question qui aujourd'hui est acquise, même si on entend deux, trois révisionnistes par-ci, par-là qui la mettent en doute. Mais cette notion d'évolution, aujourd'hui, personne ne serait tenté de la critiquer ou simplement de dire que c'est une hérésie, une folie. Et pourtant, le frein à l'innovation est finalement une réaction qui est très proche du négationnisme ou du révisionnisme de l'évolution des espèces. Je pense que si on en était resté à l'âge de pierre, pour les outils, pour les savoir-faire, les métiers que vous connaissez, que vous pratiquez aujourd'hui n'existeraient pas. Donc finalement, je dirais que l'innovation est au savoir-faire ce que l'évolution est à la vie. C'est une manière, c'est une stratégie de survie. Alors on a vu des très très belles démonstrations de création et de créativité. C'est un objectif de l'innovation, mais je pense qu'il faut vraiment garder à l'esprit que l'innovation n'est pas une mode, l'innovation n'est pas une fin en soi, c'est la seule manière qu'on a de survivre. Et je vous dis ça avec une certaine solennité, parce que je considère qu'on est en risque. Il y a des replis identitaires dans les métiers aussi. Il y a des tendances à revenir vers ce qu'on savait faire avant, vers des pratiques qui sont bien identifiées, des territoires qui sont connus. Or, l'innovation, c'est certes une prise de risque, c'est certes une dépense d'argent, c'est certes un voyage en terrain inconnu, mais c'est la seule manière qu'on ait trouvé en fait, de continuer à pratiquer des métiers. Il y a des métiers qui ont l'air très traditionnels aujourd'hui, mais qui sont, enfin tous les métiers qui ont l'air traditionnels aujourd'hui, sont le fruit de centaines d'années d'innovation. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on devrait s'arrêter au 19e siècle, parce qu'on a cette image un peu traditionnaliste de l'artisanat et des savoir-faire. Donc, pour revenir à nos chers compagnons, donc je dois préciser que je ne suis pas compagnon, c'est pour ça que je me permets de parler du compagnonnage avec cette petite distance, même si j'ai beaucoup d'affection pour l'esprit du compagnonnage et puis pour ce qui s'y passe. Donc, pour revenir au projet du compagnonnage, il faut garder à l'esprit qu'il y a une très très grande ouverture d'esprit, justement, dans le compagnonnage, mais cette ouverture, elle se fait de manière très spontanée. Elle se fait d'abord grâce aux expériences en entreprise. Un jeune qui passe par chez nous, par les Compagnons du Devoir, s'il fait tout le cursus, il a minimum, à la fin de son tour de France, 7 entreprises différentes, avec 7 pratiques différentes, 7 villes aussi différentes, puisqu'il va voyager de ville en ville. il va découvrir la France. Alors moi, je suis toujours fasciné de voir à quel point ils connaissent la moindre petite départementale, le moindre petit bled français au Trivial Poursuite en géographie. On est complètement foutu avec les compagnons du devoir. Mais il voyage aussi beaucoup à l'international. Il y a maintenant une année à l'international qui est de rigueur chez les compagnons, ce qui fait qu'on va avoir des jeunes un petit peu partout. Il y a deux, trois exemples que j'aime bien citer de manière récurrente parce qu'ils sont assez symptomatiques. Je pense à un jeune menuisier qui est parti au Cambodge monter un centre d'apprentissage et qui s'est installé là-bas, qui a développé toute une démarche vraiment passionnante sur la récupération du bois parce qu'il y a une politique de préservation de la forêt tropicale au Cambodge qui est très très stricte et tant mieux. Et du coup, il a développé une nouvelle activité. Il travaille pour les hôtels, il travaille pour les particuliers, en local et à l'export. Et cette aventure, ce Tour de France, qui est un tour du monde aujourd'hui, lui a permis de faire une forme d'innovation dans un bout du monde où il serait probablement pas allé s'il avait suivi une formation dans une autre école, probablement aussi bonne, mais qui n'a pas cet esprit de voyage, d'ouverture d'esprit, de découverte. Je pense aussi à un autre menuisier, mais il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que les artisans du bois qui ont l'esprit ouvert, qui est parti en Terre Adélie à la base du Mont d'Urville, un petit peu sur un coup de tête en se disant que là-bas il y avait peut-être quelque chose à faire qui ne se faisait pas ailleurs. Bon, finalement, en termes de métier, il n'a pas trouvé grand-chose. Hein, je pense qu'il a réparé des placards, fait des choses de bonne qualité, mais pas forcément très innovante. Mais par contre, il a découvert un univers et qui fait qu'aujourd'hui, il revient quasiment tous les ans ou tous les deux ans à la base du Mont d'Urville. Il passait 2-3 mois pour aller voir les manchots empereurs. Et il y a une espèce de magie, en fait, qui l'a complètement fasciné. Voilà, ça fait partie de ce que le compagnonnage peut apporter. Là, je vois d'autres projets, un départ à Taïwan avec des ébénistes et ensuite un travail avec des maroquiniers. Enfin, il y a toute une vie dans le compagnonnage qui fait que l'innovation, ce n'est pas uniquement technique, c'est aussi la mise en place d'un dialogue avec d'autres personnes, tout simplement. Donc, cette notion d'innovation, on a souhaité en faire bénéficier le plus grand nombre au sein de l'association des Compagnons du Devoir. Et pour en faire bénéficier le plus grand nombre, on s'est interrogé sur la manière de la faire rentrer dès la formation initiale. En fait, ce que je disais tout à l'heure sur les profils réfractaires à l'innovation, c'est tout à fait vrai aussi chez les compagnons du devoir, on n'est pas mieux qu'ailleurs. Hein. Et finalement, on s'est rendu compte que les participants au projet un peu innovant, un peu atypique qu'on proposait, c'était tous des gens déjà convaincus. Bon, encore une fois, le même propos, ça ne changeait pas. Par contre, on avait fait aussi le constat qu'en formation initiale, les points de vue, les a priori n'étaient pas aussi figés qu'après 5 à 7 ans de pratique professionnelle. L'esprit est beaucoup plus ouvert, on n'a pas rencontré un maître d'apprentissage ou un professeur qui est devenu un petit peu une référence et qui vous a cloisonné certaines cases de l'esprit. D'autres les ont ouvertes. Hein. Mais bref, il n'y a pas eu de pétrification de l'imaginaire. Et on a tout simplement pris conscience que l'innovation, la créativité, l'ouverture d'esprit, il fallait la pratiquer comme ça se fait dans le compagnonnage, dès le premier jour où on rentre dans une maison de compagnon. Donc ça se fait aujourd'hui, alors pas dans tous les métiers, parce que il y a des problématiques de corporation, de métiers chez les compagnons du devoir, ce qui fait qu'on n'avance pas aussi vite dans tous les métiers. Mais dans certains métiers, on a réussi effectivement à mettre en place des projets, alors qui ne sont pas forcément des projets qui sont radicalement innovants, qui vont nous amener sur la Lune, comme je vous ai laissé un petit peu croire sur ma deuxième diapo, mais qui sont plutôt des premières rencontres avec d'autres approches. On va par exemple faire des collaborations avec des stylistes, des designers ou des architectes. Et là, le premier enjeu, c'est de prendre conscience de ce que c'est qu'un commanditaire, de ce que c'est qu'une commande, de ce que c'est qu'un dialogue avec quelqu'un qui a un besoin et de comment on y répond. Je pense que c'est une problématique que vous connaissez pour certains d'entre vous ou pas encore. Et pour autant, c'est le premier point d'entrée sur le questionnement de sa pratique. Ludovic le disait très bien tout à l'heure, le travail de commande, quelque part, nous amène dans un territoire qu'on n'aurait pas forcément exploré. Et le fait de s'interroger sur ce que c'est qu'une commande, comment ça fonctionne, c'est aussi une manière d'aborder son travail avec un œil nouveau. On va dire que ça, c'est un peu le niveau initial qu'on a mis en place. Donc, on a plein de collaborations avec des écoles, avec l'ENSI, l'ENSAD, l'École des Arts Déco de Reims, Saint-Étienne. Enfin, comme les compagnons sont un peu partout en France, il y a des collaborations dans plein d'écoles différentes. Et c'est très bien comme ça. Ensuite, on propose aux jeunes qui sont un peu plus avancés dans leur formation de travailler sur du prototypage. Le prototypage se fait à un niveau un petit peu plus complexe techniquement, puisqu'il demande aussi un développement de solutions techniques plus spécifiques. Je reviens juste sur l'étape d'avant. En fait, quand ils sont sur des commandes, c'est généralement sur des problématiques assez simples, avec des savoir-faire qu'ils maîtrisent complètement. Sur le prototypage, on les emmène sur des territoires plus inconnus, mais ils sont toujours sur une réponse à un besoin extérieur. Et puis, on a mis en place la démarche du défi Innover Ensemble, qui en fait vise à faire collaborer des experts, des savoir-faire, donc en l'occurrence des artisans des matériaux souples, des maroquiniers, des celliers, des tapissiers, des cordonniers, avec des experts de la création, des designers textiles et des experts du marché. Donc vous aurez bien compris que j'ai insisté sur le terme expert, c'est-à-dire qu'on met tout le monde au même niveau. La créativité appartient dans un projet collaboratif à tout le monde. Je suppose quand Felipe a travaillé avec son orfèvre que personne n'était au-dessus de l'autre, qu'il y avait un véritable dialogue et que le projet s'est nourri des créativités de chacun, de la culture de chacun. C'est ce qu'on essaye d'orchestrer. Moi, j'ai un petit peu un rôle de maître du jeu. Je ne sais pas si vous avez joué au jeu de rôle quand vous étiez plus jeune, ou peut-être vous y jouez encore. Moi, j'ai dû assister à 2-3 parties. Je n'ai pas vraiment réussi à rentrer dans l'esprit, mais j'ai retenu cette histoire de maître du jeu, c'est-à-dire une personne qui ne se contente de guider, une équipe dans un cheminement, mais qui ne donne ni de direction, ni de directive. Donc, je ne suis ni directeur artistique, ni designer, ni responsable technique, mais on met en place en fait un cheminement à travers qui permet la rencontre et la découverte des savoir-faire des uns et des autres. Alors, pour vous parler de ce cheminement, j'ai décidé de vous présenter un projet qui est le projet Gaïa, qui était lauréat du prix de l'excellence qui est offert par la Fondation J.M. Weston. Et ce projet Gaïa donc, a été réalisé l'année dernière par des étudiants de l'ENSI, de l'IFM et des jeunes compagnons, en l'occurrence une jeune cellier, Aurélie, et une jeune tapissier, Mélanie. Bon, je ne vais pas vous citer tous les noms, vous les avez à l'écran. Mais ces deux métiers-là sont intéressants et sont importants à citer parce qu'ils ont vraiment apporté leur savoir-faire. Et pour ceux d'entre vous qui connaissent ces deux métiers et qui connaissent leurs distinctions, on sait que ce sont des métiers qui ont l'air assez proches et qui en fait ont des domaines de compétences qui sont quand même complémentaires et d'autres domaines qui sont effectivement en recouvrement. Là, c'était véritablement intéressant parce qu'on aurait pu imaginer que cette rencontre d'une tapissier et d'une cellier n'allait pas forcément faire avancer beaucoup leurs connaissances techniques. Mais au contraire, et c'est probablement le fait d'avoir été confronté à des questions de designer, à des questions de manager, elles ont pu se challenger mutuellement pour trouver des solutions sur des problématiques qu'elles n'auraient probablement pas abordées chacune dans leur métier respectif et toutes seules dans leur coin. Alors moi, je me suis fait une espèce de petit schéma, je ne sais pas si on les voit bien à l'écran, mais qui raconte un petit peu la chronologie de la rencontre. C'est plutôt ça que j'ai envie de vous raconter que les projets eux-mêmes, même s'ils sont très intéressants et qu'on pourra en parler par la suite. Donc, la chronologie de la rencontre, quelle est-elle ? Au début, on a 6 personnes qui ne se connaissent pas, qui n'ont absolument aucun point en commun et qui ont plutôt des a priori les uns sur les autres, par rapport aux autres. Et je dirais que la première chose à faire, c'est de créer la rencontre et de créer l'en commun. Donc pour ça, on fait un moment qui est un week-end d'accueil, qui est un moment extrêmement convivial, où les gens mangent ensemble, font la cuisine ensemble, se retrouvent, apprennent à se connaître, et les équipes se forment de manière assez spontanée. Personne ne dicte qui doit faire quoi. Ça permet comme ça d'éviter les clashs directement après le démarrage du projet. Ça ne me permet pas d'éviter totalement les clashs, il y en a toujours hein, dans le travail en équipe, mais en tout cas, ça favorise les équipes qui se forment par affinité. Suite à ça, se fait la rencontre. La rencontre, elle doit permettre d'abord de se trouver des points communs. Et les points communs ne sont pas forcément liés au métier. Ça doit être peut-être juste une passion en commun, un hobby, un moyen de casser justement ces a priori dont on parlait et qu'on retrouve parfois dans certains studios de création où le prototypiste regarde le styliste comme un ennemi juré et le manager débarque dans tout ça en s'arrachant les cheveux parce qu'il n'arrive pas à faire rentrer le projet dans ses cases marketing. Donc justement, pour casser cet a priori-là, on essaie de créer un peu d'en commun, de plaisir à se retrouver. Et le préalable au projet, pour nous, ce n'est pas forcément le savoir-faire, c'est plutôt le savoir-vivre et le savoir-être. Donc ça se passe comme ça, ça se passe dans une maison de compagnons, et on tient à ce que ce soit sympa et convivial et qu'on mange bien. Mais bon, ça, c'est toujours dans les maisons de compagnons. Je vous invite d'ailleurs à venir les visiter. Ensuite, il est important que chacun puisse identifier le territoire de compétence de l'autre. Ce territoire de compétences, souvent, il est connu de manière superficielle. On sait que le maroquinier, il travaille le cuir, on va dire au sellier de faire un cousu sellier qui n'existe pas. Mais bref, chacun va avoir des a priori, des caricatures du métier de l'autre. Et souvent, quand la rencontre ne se fait pas, le créateur va se contenter en fait de dessiner un objet en partant de ses a priori, de ses caricatures. On va rester très en surface des savoir-faire. Et finalement, cette absence de dialogue et de rencontre va appauvrir considérablement d'un côté le langage de la création, de l'autre côté le langage de l'aménagement d'intérieur chez vous, dans votre appartement, dans les restaurants, dans les musées. Ça va être de plus en plus pauvre parce qu'on n'utilisera pas les savoir-faire des artisans et des artisans d'art pour exprimer la complexité en fait du langage de l'objet. Et puis au final, il va appauvrir complètement les métiers puisqu'on n'utilisera plus que quelques caricatures de savoir-faire au lieu de rentrer vraiment dans la richesse des savoir-faire. Donc il est important que ces territoires de compétences soient connus de chacun. Ensuite, l'étape suivante, je dirais, c'est de savoir quels sont les territoires de convergence, en fait, de complémentarité où on peut bosser ensemble. Et ça, ce que je vous expliquais dans l'échange, par exemple, entre Aurélie et Mélanie, il y a eu une espèce d'alchimie très intéressante qui s'est opérée. Et elle vient de la rencontre globale avec l'ensemble des membres de l'équipe, puisque une designer textile a développé, en fait, pour le projet, une espèce de fourrure à base de cuir, de chute de cuir retissée, qui nécessitait d'être mise en œuvre en tension uniquement. Et c'est à ce niveau-là, en fait, que les deux savoir-faire se sont complètement complétés, puisque d'un côté, Mélanie, la tapissière, a fait un formidable travail d'empochage, mais juste au niveau en fait, de la structure métallique, ce qui fait que la tension est parfaite et visuellement, on n'a absolument aucun pli, aucun détail en fait, d'assemblage qui est visible à part cette couture extrêmement fine. Et puis de l'autre côté, on a une solution qui a été développée par la jeune sellier qui a emprunté en fait une technique de rail caravane, qui est une technique utilisée beaucoup par les selliers en fait dans l'univers automobile et dans l'univers nautique, qui permet d'utiliser un jonc souple ou rigide pour faire suivre un cheminement à un matériau textile. Donc en fait, on a un projet qui a été entièrement dessiné par la rencontre entre la créativité des savoir-faire, la créativité du design textile et du design objet, et par aussi une approche de la connaissance du marché qui leur a permis, grâce au regard des managers, de bien savoir comment situer en fait ce produit dans une offre de marché, quel est son coût de production et quel serait son prix de revient en fait s'il devait être réalisé sur des séries un peu plus importantes. Donc toute cette conscience-là est extrêmement importante dans le projet et permet en réalité d'amener une forme d'innovation qui n'est pas forcément, comme je le disais tout à l'heure, une innovation de type spectaculaire, mais qui est une innovation d'approche et de fertilisation croisée des savoir-faire. Donc voilà le petit schéma que je vous avais présenté tout à l'heure. Et je finirai enfin sur cette nouvelle maison de compagnons du devoir dont vous parlait Pascal tout à l'heure. Effectivement, depuis 3 mois, il y a une nouvelle maison de compagnons du devoir qui se situe à Pantin, 22 rue des Grilles exactement. C'est un événement dans le compagnonnage parce que les dernières maisons de compagnons du devoir ont été achevées probablement à la quelques quelques décennies après la Seconde Guerre mondiale, vers les années 60-70, quand le besoin de logement pour les jeunes en recherche d'emploi était très important. On n'avait pas fait de maison de compagnons du devoir depuis très très longtemps. Et quand on s'est interrogé sur la construction de cette maison, mais aussi l'animation de la vie qui allait s'y passer, on s'est reposé les questions fondamentales, à savoir qu'est-ce que c'est qu'une maison de compagnons du devoir. Je vous disais tout à l'heure, une maison de compagnons du devoir, on a de l'accueil, donc il y a des chambres avec des lits. Parfois, c'est des chambres où ils sont 3, 4, 5, quand c'est des maisons un peu anciennes, mais de plus en plus, c'est des chambres qui ressemblent à des logements étudiants, comme c'est le cas à Pantin. Il y a des lieux de formation, théorique et pratique. Et il y a un accès à l'emploi, c'est-à-dire qu'un jeune qui vient, par exemple, de Toulouse pour aller sur Paris, il va chercher un emploi et on va l'aider via la maison des compagnons du devoir de Pantin, de Paris, d'Épône ou d'ailleurs, à trouver un employeur dans son métier. Donc tout ça, c'est le schéma traditionnel. On a souhaité élargir ce schéma traditionnel sur d'autres thématiques qui sont l'observation, l'innovation et l'information. Donc la maison des compagnons du devoir de Pantin a vocation, a l'ambition d'être le pôle d'excellence des matériaux souples, puisqu'il y a effectivement 600 m² d'ateliers équipés pour les métiers des matériaux souples. Et cette maison, en fait, vous pourrez bientôt la visiter, puisqu'à partir de septembre, on lancera le programme du pôle d'excellence de matériaux souples, qui a vocation à accueillir à la fois des conférences comme celle-ci, peut-être d'autres conférences de l'INMA, ce sera avec plaisir, mais aussi des projets de recherche, des projets de collaboration avec les écoles, et puis également des projets de collaboration avec les entreprises pour développer des travaux de recherche en lien avec les matériaux souples. Donc voilà quelques visuels de la maison. Vous aviez des visuels 3D, je voulais vous prouver que tout ça n'était pas un rêve. C'est bien une maison qui est construite, alors avec des plâtres à essuyer parce qu'elle a été livrée en 14 mois top chrono, mais les jeunes y sont bien, la maison est lumineuse, on aura bientôt un jardin fleuri et on espère vous y voir nombreux. Voilà, merci beaucoup.
Qui se lance, parce que... Wow. Ludovic, est-ce que ce que tu nous as montré est issu d'un travail avec designer ou est-ce que c'est fait à partir de votre propre équipe de 6?
En fait, c'était un peu mélangé, mais il y avait à peu près moitié des projets qui sont à l'initiative personnelle et le reste, c'est né de rencontres et de dialogues. Et ce qui est intéressant dans le dialogue... Je trouve que quand un et un font trois, c'est-à-dire que quand on se rencontre et qu'on va ensemble au-delà de ce qu'on imaginait aller, et parfois un et un font zéro, un et un font deux, on arrive à faire des choses. Mais une belle rencontre, une belle synergie, c'est pas tous les jours, mais on peut faire des très belles choses à deux, à trois ou à quatre. Oui.
Qui pose la deuxième question ?
Bonsoir. Donc c'est une question pour Monsieur Philippe. Vous avez parlé par rapport à l'hypnose,
oui.
Que vous objetez donc activer l'état second des personnes, et vous avez dit accompagner l'état second. Et je voulais savoir en quoi ça consistait en fait.
Oui, excusez-moi, j'étais un petit peu succinct en fait. Lorsque vous rentrez en état hypnotique, vous êtes, y a certaines caractéristiques. La première, c'est que vous êtes souvent... On a l'impression qu'on est très passif. Souvent, les gens, ils sont assis ou allongés. On essaye plutôt d'encourager d'être assis plutôt qu'allongé, mais on peut être aussi debout parce qu'on s'endort, en fait. Mais a priori, on est dans un état très passif. On croit qu'on est dans un état très passif, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est, plutôt hyperactif d'un point de vue sensoriel. Et quand je dis qu'il déclenche la transe, c'est que, bon, évidemment, il apaise le conscient et réveille l'inconscient. Mais ensuite, tout le travail que vous allez faire par rapport à l'objectif dont je vous ai parlé va se faire, donc, c'est un peu abstrait, mais sous la forme simplement d'un exercice dans lequel il y aura une histoire pour accomplir cet objectif. Donc, par exemple... si je schématise, hein, parce que c'est des cas cliniques très précis, il y a plusieurs écoles, il y a l'école ericksonienne indirecte, enfin il y a beaucoup d'exercices ou de cas ou de protocoles. Mais a priori, ce qui se passe, c'est que lorsque vous êtes en état d'hypnose, une chose c'est l'activer et une autre chose c'est quand vous êtes dans cet état, travailler les suggestions que viennent de votre hypnothérapeute ou qui viennent de vous-même quand vous êtes en auto-hypnose. Ces suggestions, donc par exemple, pour être plus clair, ça, il s'agira par exemple dans un voyage sous hypnose, c'est par exemple si vous voulez arrêter de fumer, le protocole c'est plutôt, vous allez imaginer d'abord que vous êtes dans une chambre, puis qu'ensuite dans cette chambre il y a une porte, et vous allez regarder cette porte avec les yeux fermés, ouverts, vous pouvez rester debout, assis comme je vous disais. Et ça, c'est l'accompagnement en fait. Et toutes ces suggestions que la personne va vous suggérer, vous allez vous diriger vers la porte, vous allez ouvrir la porte, vous allez sortir, vous irez vers un jardin, etc., etc. Vous allez vous retourner, vous allez voir la cigarette qui est restée à l'intérieur et vous allez fermer la porte. Voilà l'exercice classique pour arrêter de fumer. Et il est censé à vouloir vraiment arrêter parce que l'inconscient comprend que la cigarette est restée à l'intérieur, que la porte est fermée et que vous êtes dehors. Je schématise. Pour accompagner ce voyage, en fait, les hypnothérapeutes ont toujours besoin d'images, de référentiels, du concret. La porte, le jardin, le toucher, et qui sont très fortement liés aux émotions. Donc, l'accompagnement s'agit de créer des objets dans lesquels, en fait, vous allez pouvoir aussi imaginer que ces exercices-là peuvent pouvoir s'appliquer. Par exemple, un exemple pour le bol, si vous vous rappelez. Lorsqu'on le faisait découvrir au public, en fait, on demandait au public... L'objectif des séances qu'on avait organisées, c'était de découvrir l'hypnose. Donc, il n'y avait pas forcément une grande charge émotionnelle. Mais on demandait au public de s'imaginer à l'intérieur de ce bol, par exemple, et de voir quelle était la sensation qu'on pouvait avoir de l'intérieur, la lumière de ce trou, est-ce qu'on pouvait s'allonger, etc. Et c'est dans ce sens-là, en fait, c'est vraiment un rapport psychologique. Pardon, je m'étale encore une fois, je pourrais parler des heures, mais je ne sais pas si je réponds. Mais en fait,
c'est sur l'objet.
Voilà.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y a en tout cas deux. Je fais une annonce, hein, parce que vous n'avez pas de questions. Il y a deux autres expositions que Mutation autour des métiers d'art. Il y a celle qui a lieu au Palais de Tokyo, je ne sais plus jusqu'à quand, sur les outils au Palais de Tokyo, donc dans le 16e. Et puis, il y a celle qui a lieu au Gobelin, dont Marc Bayard est le conseiller culturel. Et qui présente les ateliers du mobilier national pour la première fois, avec un certain nombre de démonstrations. Donc, au Gobelin, voilà, c'était l'annonce. Il y a une question ?
Merci. Oui, ma question, en fait, ça portait... donc là, on parlait aussi d'associer les savoir-faire avec des designers, avec différentes compétences, pour essayer de poursuivre ça et de rendre ça actuel pour aujourd'hui et pour demain. Et en fait, moi, je me demandais, c'est vrai que souvent, quand on parle de savoir-faire, c'est associé au milieu du luxe, donc c'est accessible à très peu de personnes, donc ça reste comme ça assez lointain. Et comment est-ce qu'on pourrait aussi peut-être rendre ça plus concret pour la plupart des gens, en fait ?
C'est pour moi. Ok. J'ai l'accord de mes collègues pour prendre la parole sur ce sujet-là. En fait, c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur chez les compagnons parce que, comme je vous disais, les métiers d'art font, je dirais, que sont une partie vraiment très limitée en fait de la pratique des savoir-faire. Et on a beaucoup de jeunes qui se forment chez nous, qui travaillent aujourd'hui dans l'industrie, qui n'ont pas pour autant le sentiment d'avoir renié leur identité. Et je prends l'exemple d'un sellier, Clément Parel, qui travaille actuellement chez Decathlon. Et lui, il a une formation très traditionnelle en fait, de sellier. Alors sellier garnisseur, hein, pas sellier harnacheur, donc le sellier qui s'occupe de la sellerie automobile et nautique, pas celui qui s'occupe des chevaux. Et Clément me racontait en fait que suite à sa formation, il avait souhaité faire une formation en design et qu'aujourd'hui, il œuvrait en fait chez Decathlon, non pas en tant que designer, ni même en tant que sellier, mais justement du haut de sa posture ou de sa position à cheval entre la créativité sur les usages et la créativité sur les savoir-faire, et que cette capacité en fait lui permettait, il parlait lui d'empathie avec les fournisseurs. Alors le terme fournisseur, il enferme un peu tout le monde dans une même boîte, mais il faut imaginer que derrière fournisseur, il y a des vraies relations humaines. Et il expliquait très clairement que le fait de savoir comment en fait ces collaborations, enfin ces fournisseurs travaillaient, lui permettait d'en faire l'usage le plus intelligent possible. Donc l'intelligence des savoir-faire, elle n'est pas forcément cantonnée en fait dans des métiers dans des produits à très très haute valeur ajoutée. Elle peut aussi, par sa compréhension en fait de la mise en œuvre des matériaux, des technologies, des systèmes, rentrer dans des logiques plus démocratisées en termes de diffusion. Donc c'est une des pistes en tout cas qu'on peut envisager sur l'implication des savoir-faire, des métiers d'art dans ces sujets-là. Et Ludovic le prouve bien à travers son travail sur le vélo, notamment chez PSA. J'imagine que là aussi, il y a eu une vraie problématique de démocratisation du produit. Tu veux peut-être en dire deux mots ?
Oui, c'est vrai que les savoir-faire sont quand même en effet liés pour la plupart au secteur du luxe, mais en effet on peut être aussi les laboratoires pour l'industrie qui permettra après par la quantité de baisser les coûts et d'être plus démocratisé. Et cette problématique de coûts, c'est souvent la problématique de démocratisation. Alors après c'est des questions de comment consommer, comment est-ce que nous consommons, est-ce que le prix, tout dépend en fait de la durée. Je prends par exemple un bureau réalisé en ébénisterie, une commande sur mesure, un particulier qui vient me voir, ben je pense que je suis moins cher aujourd'hui qu'un industriel. Alors c'est plus onéreux, mais c'est moins cher. Pourquoi ? Parce que si j'achète un produit aujourd'hui industriel revendu, il y a toute une chaîne de production où, à mon avis, il y a 99% de chances que ce produit est fabriqué à l'étranger avec des coûts de production très bas, avec une qualité très médiocre, et la pérennité de cet objet est très limitée. Alors que le bureau fabriqué en France par un artisan, dans des règles de l'art, etc., est censé pouvoir traverser les époques, être restauré, etc. Donc si je fais un calcul sur du long terme, en tout cas, je pense que l'artisanat est moins cher. Mais il y a ce problème de démocratisation, en effet, parce qu'on est souvent plus dans une logique à court terme qu'à long terme. Donc c'est toute une culture des modes de consommation et de production qui sont à repenser, et aussi des artisans aujourd'hui qui doivent prendre conscience, qui doivent continuer à produire de la qualité et surtout de la pérennité. Ouais.
Pascal Martin.
Oui, moi j'avais une question à propos du projet sur l'os. Pour Philippe Ribonne, je me demandais quelle était la suite du projet, parce que j'étais assez fascinée par toutes ces applications que je ne soupçonnais pas et qui étaient effectivement très très quotidiennes. Et je me demandais s'il y avait déjà des pistes de diffusion, quelle était la suite du projet. Là, on a vu des images, mais dans la réalité, comment ça peut se diffuser, enfin, comment on pourrait devenir acquéreur d'une paire de chaussures avec des talons en os, quoi, concrètement?
Vous pointez bien le doigt là où il fait mal, mais en fait, enfin, ça fait mal. Moi, je suis très content, mais je veux dire, tout ce que je vous ai présenté, qui est vraiment tout l'os jusqu'aux objets d'hypnose, jusqu'à, bon, peut-être mon premier objet, c'est celui d'Osmos, qui peut éventuellement être acheté, mais pour l'instant, en fait, à chaque fois que je me suis confronté à, justement, on arrive à ces solutions, à ces applications, presque que toute la démonstration est là. Il faut juste que quelqu'un qui fabrique s'en empare, et puis que aussi ça se développe. Parce que moi, c'est ce que je peux amener, moi, tout seul, jusque-là. Mais on parlait de collaboration avec quelqu'un qui vraiment connaît ce que c'est l'os, ou quelqu'un qui a les moyens et les métiers, on pourrait amener des nouvelles usages, etc. Zéro, j'en ai trouvé zéro pour aucun de mes projets. Que ce soit la salle de bain, l'os, les objets d'hypnose, ils sont tous fabriqués en France par des artisans, peut-être pas tous de métiers d'art, mais tous des artisans français. Comme, tout ce que vous avez vu est fait en France. Surtout tous les objets d'hypnose qui sont des objets en pierre, en porcelaine. C'est vraiment des choses très, très... d'une très bonne qualité, très haute qualité. Et en fait, ça n'a pas forcément intéressé... quelqu'un. J'ai rencontré des éditeurs, des jeunes éditeurs, des grands éditeurs. Ils connaissent mon travail et souvent les portes se ferment. En fait, ils ne savent pas trop comment s'y prendre, ils ne savent pas trop comment se placer par rapport à un travail qui est un petit peu peut-être souvent, je ne suis pas d'accord, mais on dit souvent prospectif. Je ne pense pas qu'il soit prospectif. Au contraire, je pense qu'il est plus que jamais, il est vraiment ancré dans notre quotidien, dans le présent. C'est nos problématiques d'aujourd'hui qui me font amener ces réponses. Mais il le pense un petit peu prospectif. C'est-à-dire, ah oui, c'est super intéressant, peut-être dans 10 ans, ou votre salle de bain, dans 10 ans peut-être. Et c'est vrai que, alors, je suis peut-être aussi très mauvais. Je suis peut-être très mauvais aussi businessman, ou je ne me vends pas très mal. Mais c'est vrai que personne... J'ai rencontré vraiment beaucoup d'éditeurs français, notamment, je ne vais pas donner les noms, mais à qui je leur expliquais de A à Z comment ils pouvaient vraiment profiter. Et la réponse était souvent, vous n'avez qu'à le faire vous-même. Et je ne peux pas à chaque fois faire une entreprise d'os et une entreprise de salle de bain et maintenant une entreprise d'hygiène. Et pour le projet qui suit sur le spiritisme et communiquer avec les morts, une secte, quoi. J'aurais besoin d'avoir au moins six jumeaux. Donc, je ne sais pas. C'est peut-être... je ne sais pas si pour conclure, mais en tout cas, ce qui me concerne, c'est que toutes mes recherches, pour l'instant, elles sont pas théoriques, puisque je les réalise, elles existent concrètement et il y a des usages, mais commercialement, d'ailleurs, mes parents sont très inquiets. De quoi tu vis, mon petit ? Parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas un marché, alors qu'ils pourraient, de la galerie, de petits éditeurs, à l'étranger. Mais pour l'instant, j'attends que peut-être quelqu'un, peut-être dans cette salle.
Heureusement qu'il y a des villas. Mais c'est un paradoxe hein, pour un ingénieur des mines de s'intéresser à l'hypnose. Alors après... les choses sont plus complexes. Oui.
J'avais une question aussi justement par rapport à vos projets sur à base d'os. Et ma question en fait c'était du point de vue économique, parce que vous expliquiez que les bouchers, etc., donc ils doivent payer pour faire incinérer les os, etc. Et donc vous, comment ça se passe ? Est-ce que c'est sur un échange de bons procédés ou vous leur rendez service ? Enfin, comment ça se passe d'un point de vue économique en fait ? Vis-à-vis d'eux, voilà.
Je sais pas, on n'a qu'un micro.
Ce que je posais comme structure de marché, c'est-à-dire que cette matière première qui aujourd'hui leur coûte de l'argent de s'en débarrasser, déjà cet argent, ils peuvent me la donner à moi, à mon entreprise. et je peux leur m'en débarrasser de leurs objets, ce qui pour eux est un déchet, pour moi c'est une matière première, c'est vraiment du potentiel créatif. Et donc ils étaient très intéressés. Et puis bien sûr, je l'ai fait moi-même avec mon boucher, de prendre le fémur et de le cuire chez moi pour le nettoyer. Mais j'ai aussi avec cette usine qui aujourd'hui en France, la dernière usine, c'est peut-être un grand mot, mais la petite artisan allemand au centre de la France, dans lequel on produit donc les os qu'on utilise pour les instruments de musique. Ils me fournissaient la matière première déjà propre, nettoyée, et eux, ils avaient déjà leur réseau. En fait, c'est très local, parce que j'ai même pas besoin de faire venir lavage de Limoges pour faire des couteaux parisiens, ou des manches de couteaux parisiens. Il faut juste aller chercher la vache ici. Et en fait, pardon, c'est un peu glauque, mais en fait, il y a un marché. C'est ce qui est vraiment très, je trouve pour moi important ce projet, que c'est les très local. On a même la France devient très grande en fait par rapport à ce projet. Et chaque région a chaque espèce de vache a une caractéristique, une couleur, une taille. Et Et c'est tout ça que je pense que ça peut être intéressant de... Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais en fait, la question, c'est vraiment de quelque chose qui coûte de l'argent, de s'en débarrasser. Bah, ne dépensons pas de l'argent et donnez-la moi.
Merci. Peut-être qu'il y a des amateurs pour créer une entreprise qui permettrait à Felipe de développer ses startups. Il y a des aides. Et pourquoi, Felipe, vous n'avez pas les lunettes que vous avez montrées ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ce qui était intéressant chez Ludovic, c'est qu'il nous disait à un moment que le travail de l'artisan, il y a quelques années, c'était essentiellement de travailler la matière. Et que maintenant, dans son métier, il y a une part de prestation de service et même un temps de recherche-développement qui est extrêmement important. Alors, je ne sais pas si tu veux...
C'est vrai que en fait, quand j'ai commencé, je me rendais compte que sur des projets, parfois, j'avais plus de temps de réflexion, de conseil, que de réalisation. Juste que ce temps-là, il n'était pas valorisé. En tout cas, je ne le valorisais pas en termes... Je faisais le total des temps que j'avais passé sur le projet. Je me disais, bon, OK, j'ai facturé ça et j'ai passé tout ce temps-là. Donc, mon modèle économique, il n'était pas viable sur de la longue durée. Et moi, ce qui me passionnait, en plus, c'était ce conseil, etc. Je me suis rendu compte que dans les métiers d'art, on est les seuls à ne pas vendre notre compétence en tant que conseil. Et beaucoup d'entreprises sont à la recherche de cela. Et aujourd'hui, je le pratique sans aucun problème avec de nombreuses sociétés où j'ai une facturation qui se fait de conseils, de recherche, de développement, etc. Et qui est complètement ancrée et qui marche très bien. Donc c'est là aussi où il faut sortir de ces manières traditionnelles de fonctionner et trouver aussi des modèles économiques ou des relais économiques qui peuvent permettre d'exercer pleinement son métier. Et c'est vrai que c'est une part très importante en tout cas pour la réalisation, puisque pour moi, quand je réalise un projet en amont, parfois la réalisation d'un projet, c'est 2/10 du projet. Tout ce qui a été fait en amont, entre les dessins, les plans, les recherches, les échantillonnages. Une fois qu'il n'y a plus qu'à faire, je dirais que c'est parce que tout le reste a été fait. Et tout ce reste, souvent, si on n'a pas le budget pour le faire, on le bâcle, on le fait à la va-vite, ou on n'a pas et du coup, on travaille mal et on n'a pas le temps pour bien le faire. Donc, en tout cas, cette manière de réussir au-delà de faire, à pouvoir vendre le reste est vraiment important. Et c'est vrai qu'en général, on ne parle pas d'argent, mais moi, je ne suis pas attiré par ça, mais en tout cas, ça fait partie d'une donnée fondamentale pour pérenniser une activité. Et ça, c'est mon rôle d'entrepreneur à petite échelle, qui est essentiel. Une mauvaise gestion, si on ne vend pas son temps, si on ne trouve pas des méthodes créatives pour réussir à vendre son temps, on ne s'en sort pas. Et on ne s'épanouit pas non plus dans ce métier et on n'avance pas. Ouais.
Merci. Peut-être une dernière question. De ces riches apports. Bon. Ben on va remercier tout le monde, hein, nos trois intervenants. Muriel, je ne sais pas si la conférence sera en ligne ou pas. Oui. Donc c'est enregistré. Ça sera en ligne sur le site de l'INMA, peut-être sur celui des arts décoratifs, chère madame. Bon. Donc merci à tous les acteurs. Je regarde Marc Bayard puisqu'on a beaucoup parlé de temps et que Marc Bayard et Nicolas Rizzo ont créé ce mouvement Slow Made dont on a parlé à un certain moment ici, je pense, lors d'une des dernières conférences. Mais c'est peut-être une façon de marketer, mais j'aime pas le mot, le travail des professionnels des métiers d'art. Voilà. Merci en tout cas. Le prochain cycle de conférences à propos des métiers d'art commencera en janvier 2016. Pourquoi ? Parce que Muriel, c'est le 5 et 6 novembre 2015. Nous avons donc à l'Institut national d'histoire de l'art, en collaboration avec les arts décoratifs, des journées d'études autour de l'économie des métiers d'art, mais avec nos collègues européens. anglais, allemand, italien, peut-être finlandais, sur cette question de l'économie des métiers d'art. Voilà. Donc, merci de votre écoute. Merci beaucoup aux intervenants, vraiment. Et bonne soirée.